With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Propulsé par mademoiselle.com.
Oh là là.
Je suis si contente. Bonjour, bonsoir Internet, c'est trop bien. Je suis Mimi, je suis rédactrice en chef de mademoiselle.com et j'ai l'honneur d'être accompagnée aujourd'hui de Alix Martineau. Bonjour Alix.
Bonsoir, je suis Alix Martineau, chargée des podcasts chez mademoiselle.com.
Tout à fait, et je suis également avec Fabrice Florent, fondateur de mademoiselle.com.
Wesh alors.
Deux voix que tu connais bien, ainsi que la mienne, si tu es fidèle à Laisse-moi kiffer, le meilleur podcast de mademoiselle. Pour l'instant, peut-être que celui-ci va le détrôner, on ne sait pas. Bienvenue dans Sors le Popcorn, le nouveau podcast de mademoiselle.com qui va te parler de cinéma et de séries télé, c'est ma passion.
Oui, tellement heureuse, je trépignais d'impatience.
Moi, j'aime pas le cinéma.
Bienvenue.
J'aime pas, bien. J'aime pas les films.
Je n'aime pas les salles obscures ni le popcorn.
Le podcast de la joie.
Dans Sors le Popcorn, un mercredi sur deux, on te parlera du film qui sort cette semaine-là au cinéma et qui nous enthousiasme à fond. Donc on va t'en parler d'abord sans spoiler pour que tu puisses te faire une idée de « Est-ce que j'ai envie d'aller le voir ? Est-ce qu'ils en disent du bien ? Naninana ?» Et ensuite on t'en parlera avec spoiler, comme ça tu pourras écouter l'épisode quand tu auras vu le film ou quand tu auras décidé que tu t'en bats les couilles des spoilers, comme cette catégorie de la population que je ne comprends pas, et que du coup tu veux juste nous écouter, te spoiler et te décrypter tout le film. Et il y a aussi, avant tout ça, dans l'intro qui arrive très bientôt, une petite partie, qu'est-ce qu'on regarde en ce moment, qu'est-ce qui nous fait kiffer, voilà, des petites recos vite fait, comme ça. T'es prêt? T'es prête? Vous êtes prête?
Bah,
vous êtes prêt?
Moi, je suis très prête.
Ok, trop bien. Il y aura aussi un épisode par mois où nous parlerons de séries télé. Mais je t'en dirai plus dans le premier épisode autour des séries télé, donc abonne-toi, il y a un seul flux, tu auras tous les épisodes dessus, ça va être trop bien. Voilà, tu me diras ce que tu en penses, tu laisseras des commentaires, tu m'enverras des mails pour dire qu'est-ce que vous pouvez améliorer, par exemple avoir des jingles pro, tout ça. On verra. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous regardez en ce moment? Qu'est-ce qui vous fait kiffer? Et je vais commencer par Fabrice, car il m'a fait un petit sourire en coin. Et je sais de quoi il m'a parlé.
Non, pas du tout.
Peut-être pas, peut-être tu regardes des documentaires sur Arte.
Peut-être qu'on aura exactement le même kiff du moment.
Bah j'en ai un en plus.
Ok, la meuf.
C'est pas des kiffs. Après, les gens, ils se perdent. Ils sont là, il y a Fab qui parle de kiff. Moi, je voulais écouter Sors le Popcorn. Si vous... Qu'est-ce que quoi?
Si vous écoutez Laisse-moi kiffer, vous avez sans doute entendu parler de cette série que je regarde depuis l'épisode 1 au moment où elle est sortie, contrairement à d'autres personnes qui décident de ne pas suivre mes recommandations, comme par exemple Mimi, ici présente dans cette salle.
Oui, du coup, j'ai rattrapé une saison et demie en bingeant. C'était trop bien.
Je suis tombé sur cette série donc il y a un an et demi à peu près, qui venait de sortir sur HBO, qui s'appelle Succession et qui m'a catch-up, qui m'a attrapé vraiment dès le premier épisode. Qui est, en gros, le pitch, c'est l'histoire d'une famille richissime à crever, où en gros le daron est à la tête d'une sorte de monopole fou d'empire complètement fou, à la fois médiatique,
parc d'attractions, croisière,
machin. Le mec a tout, vraiment tout. Et tout le pitch tourne autour de... Bah, en fait, il y finit par avoir 80 balais, ou je sais plus, 70, 80 ans. En tout cas, il est vieux, quoi. Il va être temps qu'il cède sa place. Sauf que c'est une famille un peu particulière, n'est-ce pas?
Oui. On peut dire ça, oui.
On peut dire que c'est une famille un peu particulière. Et donc, il y a ses quatre enfants, parce qu'il a quatre enfants, qui tournent un peu autour de lui pour se dire, OK, comment on va faire pour prendre la place de papa? Voilà. Sachant que je vous spoil vraiment le tout début, mais c'est pour bien vous faire comprendre à quel point la série est folle, c'est qu'à la fin du premier épisode, le gars fait un malaise cardiaque et donc tout le...
Je vais pas pouvoir regarder la Fabrice, tu m'as spoilé.
La saison 2 vient de se terminer, Mimi ?
Oui, alors, du coup, deux choses. T'as pas dit que le daron, c'est le pire fils d'up, c'est un daron ultra toxique et tout. Et je pense que ça fait partie du plaisir aussi de regarder cette série pour à chaque fois voir à quel point il va pouvoir niquer le cerveau de ses enfants, qui sont grands, hein, on dit ses enfants, mais c'est des adultes, qui sont tous cramés du ciboulot parce qu'ils ont un daron plutôt toxique. Et j'ai vu sur Twitter le meilleur résumé de Succession, et je pense que c'est un bon hameçon pour les gens. Imaginez une série sur les Lannister, et Tywin, c'est le héros, et bah c'est Succession, et c'est dans le monde moderne.
Ma
et c'est trop
passion
bien. Oui, 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 voilà. Mais si vous avez toujours genre... voulu un spin-off sur Tywin, c'est Succession.
C'est genre ma prochaine série. Enfin, là, je vous parlerai de ce que je regarde en ce moment. Vous serez impressionnés. Et
rappelons qu'Alix a une forte expertise en cinéma et en série télé qu'elle va vous jeter au visage très bientôt. Mais avant de regarder Succession, qui sera bon, un peu en dessous de ce que tu regardes actuellement,
oui, bien
forcément.
Sûr.
Oui, du coup, la saison 2 vient de se finir et avec Fab, on l'a regardé tous les lundis midi puisque aux US, du coup, ça a pris la place de Game of Thrones. C'est le dimanche soir sur HBO, ce qui est une place très convoitée. Et du coup, le lundi, nous, on peut le regarder sur OCS légalement en France. Et tous les lundis midi, du coup, depuis quelques semaines, avec Fab, on regarde l'épisode de la semaine de Succession. Si vous suivez Mademoiselle sur Instagram ou que vous nous suivez, vous avez vu nos stories débiles où on saute sur nos chaises en faisant « Ah !» à chaque épisode. C'est trop, trop bien. Et c'est vraiment, c'est hyper bien écrit, c'est hyper beau, t'as tout le budget HBO qui claque, parce que comme c'est des gens richissimes, bah, il faut bien qu'ils prennent des hélicos, qu'ils aillent dans des châteaux, sur des yachts et
la
tout,
base.
Voilà. Et c'est pas genre, on les a mis dans un appartement et on a dit que c'était une cabine
non.
de yacht. Le yacht, il est là, et il est très grand, il est plus grand que mon immeuble où j'habite, moi, sur la terre ferme. Donc c'est trop bien, il y a des vraies révélations, je trouve, en termes d'acteurs et d'actrices, il y a plein de gens. Alors, le seul que je connaissais, c'est le frère de Macaulay Culkin, Kieran, je crois, Culkin, qui joue un des enfants, qui a un peu la même tête que son frère, mais en brun. Les autres, je les avais quasiment jamais vus, même Brian Cox, qui joue, du coup, le daron, qui a une grande carrière, parce que voilà, il est vieux, mais je savais pas qui c'était, car je n'ai pas de culture. Et c'est vraiment, à chaque épisode, je suis bluffée par
le
talent d'acteur de ces gens.
Étant
Jeremy Strong, qui joue Kendall, le deuxième fils du héros, du coup, du père, et qui a une grande place dans les deux saisons. La première saison tourne beaucoup autour de lui, la deuxième tourne autour de lui d'une autre façon. Et vraiment, le gars, il... Ah, j'ai tellement d'empathie pour lui, il joue trop bien.
Il
Bref.
Joue très très bien.
Du coup, Succession, la saison 2 vient de se finir. La bonne nouvelle, c'est que c'est renouvelé pour une saison 3. La bonne nouvelle...
Putain, il y a intérêt, hein, s'ils n'avaient pas renouvelé ça, franchement, j'aurais
ça
foutu le feu HBO.
La bonne nouvelle, bis, c'est que du coup, si t'as pas encore regardé, t'as deux saisons de 10 épisodes à regarder. C'est un long format, c'est hyper beau, c'est de la prestige TV, comme on dit. Et c'est vraiment un énorme kiff. Donc regarde-la et viens me rappeler que j'étais qu'un con de pas écouter Fabrice quand il m'a dit il y a 2 ans, tu devrais regarder Succession, ça te plairait trop. Et que j'ai dit texto, ah non, les histoires de gens riches, ça m'intéresse pas.
Voilà. Pour te montrer l'ouverture d'esprit de cette personne que j'ai néanmoins nommé rédac-chef hein, de mon magazine. Mais bon, bref, c'est tout ça pour dire... Je pense qu'il faut aussi préciser un truc, c'est que je pense que c'est la seule série que j'ai jamais vue de ma vie où t'as pas un personnage que t'as envie d'aimer.
Moi, j'ai vu Breaking Bad comme ça.
Non.
Mais Jesse Pinkman.
Non, Jesse, enfin franchement...
Ah non, moi, à la fin, je ne pouvais
puis,
pas...
Ouais, peut-être tu peux avoir de l'empathie pour sa meuf, tu vois, pour... Enfin, tu peux avoir de l'empathie pour son fils, tu peux avoir de l'empathie pour plein de personnages qui sont très centraux, mais c'est Succession, je ne vois pas qui... Avec qui j'arrive à avoir de l'empathie. Alors, si t'as de l'empathie pour justement Kendall, Jeremy Strong, qui en prend plein la gueule, c'est un peu son move, mais... C'est aussi un gros fist up, hein, par plein d'autres
oui,
aspects.
Oui, carrément. En fait, c'est ça, c'est que t'as de l'empathie parce qu'ils sont, ils ont pas choisi d'être comme ils sont et que clairement ils ont été élevés à être des bâtards. Mais ça n'empêche que c'est des bâtards, donc t'as de l'empathie. En même temps, tu dis, j'ai pas envie d'avoir de l'empathie pour ce personnage. Ça, c'est compliqué. Donc ça te fait réfléchir aussi sur ton rapport à la fille de puterie en général et au fait que finalement les gens ont une part d'ombre et de lumière. C'est juste que ceux-là, ils ont beaucoup d'ombre et beaucoup d'argent aussi.
Si j'avais la possibilité de faire des histoires de daron en anglais, in English, j'irais bien interviewer le showrunner pour lui dire « Parle-moi de comment t'as fait pour inventer ce personnage de père. » Bon, on comprend au fur et à mesure que lui-même a eu une histoire familiale qui est pas forcément compliquée, enfin, qui est pas forcément très simple. Mais c'est ouf à quel point, pour moi, c'est une série familiale. C'est plein de leçons sur le parenting, d'une manière générale, Succession.
Tu regardes Succession, tu fais exactement ce qu'il fait pas. T'as des enfants à peu près équilibrés. Tu fais l'inverse de tout ce qu'il fait.
Il monte ses enfants les uns contre les autres. Et tu sens que c'est un vrai truc culturel familial, quoi. C'est pas juste là parce qu'il se rend compte qu'il va falloir qu'il cède la place. Non,
mais
c'est
du coup,
ancré.
Est-ce que vous avez déjà regardé Empire ou pas?
Alors, oui, donc Empire, c'est
parce que moi,
un
je kiffais
de...
Empire.
C'était donc un genre de soap opera dans le milieu du hip-hop. C'est toujours, d'ailleurs, c'est pas fini, la dernière saison va sortir. Et je crois que j'en avais fait un article sur Mademoiselle, et du coup, c'est pareil, c'est une tragédie familiale, mais avec du drama, pour le coup, à
mais
tous
non,
les
mais
putains
ça, c'est
d'étages.
Génial. Mais pareil, le père, c'était un zinzin, et en même temps, un épisode sur deux, t'étais là. Ouais, mais d'accord, je comprends pourquoi il fait ça, et après, t'es là. Oh, le fils de pute. Enfin, vraiment, c'était... Et pareil, il est à la tête de donc cet empire musical. Et moi, j'avais trop kiffé. Les personnages sont trop badass. Cookie Lion, voilà, j'adore.
Mais je pense que tu comprends pourquoi le daron fait ça. C'est-à-dire qu'il y a un vrai truc de... C'est toute sa vie. Et je pense que se rendre compte que de lâcher sa boîte, c'est signer sa mort, en fait. C'est vraiment signer son arrêt de mort. Je pense qu'il a ce truc-là.
Ouais, mais ça explique pas pourquoi ça fait 30 ans qu'il nique ses gosses. Enfin, alors... Pas, non. 30 ans qui flingue le cerveau de ses gosses, tu vois.
Si, moi, j'ai, quand on parle un peu très très vite de sa famille, tu comprends assez rapidement que le mec, il, c'est compliqué pour lui dans sa tête, quoi, tu vois.
Ouais.
Déjà à la base.
Je pense que cette intro est trop longue.
Oui.
Voilà, c'était la première reco de ce podcast. C'était Succession, c'est l'expo sur OCS. Tu peux tout rattraper, c'est trop bien. Alix ?
Ah, alors moi, je vous explique mon triple salto du moment, comme tu l'as décrit, Mimi.
Triple salto, double accès, grand écart.
En ce moment, je regarde trois séries. Enfin, je regardais puisque j'en ai fini une. Donc, j'en ai plus que deux. Non, j'en ai fini deux. Donc, j'en ai plus qu'une, pardon. Voilà.
Le podcast des gens très précis.
Voilà. Je regardais Peaky Blinders, dont j'ai parlé longuement dans Laisse-moi kiffer, le dernier épisode, numéro 62, qui sortira demain. J'ai parlé très, très longuement de cette série qui me tient... vraiment en haleine depuis des années, où c'est juste magnifique. Et pareil, c'est très... Enfin, les personnages sont très voyous, très mauvais, mais en même
temps... Tu peux pitcher pour les gens qui n'ont pas du tout l'info et qui peut-être n'écoutent toujours pas Laisse-moi kiffer.
Juste LMK, ça sera sorti quand vous l'écouterez, cet épisode.
Ben non, ça sort demain.
Ça sort demain, ça. Et ouais. LMK, du coup, on a dit qu'on le mettait le jeudi.
Tu peux me couper.
C'est confus, ces histoires de calendrier.
Donc, Peaky Blinders, c'est l'histoire d'un gang familial qui, au début, commence, enfin, qui a le contrôle sur la ville de Birmingham, donc en Angleterre, dans les années. Début des années 20, parce qu'ils reviennent de la guerre, la Première Guerre mondiale en France. Et donc, c'est des mecs qui sont complètement torturés. Enfin, voilà, t'as Tommy Shelby, qui est à la tête de la famille. Et qui est complètement fucked up dans sa tête, et ses frères aussi sont complètement fucked up, et en fait tout le monde est complètement fucked up dans cette série, mais en fait ils sont tellement badass et tellement beaux et tellement attrayants, enfin le truc du crime et tout, c'est un truc de malade.
Et ils sont très bien habillés.
Ils sont très bien habillés, ils ont un style on fleek, comme on dit.
Est-ce que c'est iconique?
C'est complètement iconique comme style. Voilà. Et tous les plans sont très, très beaux. Et surtout, moi, ce que j'adore, c'est les personnages féminins, comme je l'ai dit dans MK. C'est très ancré dans l'histoire. Donc, il y a vraiment une toile de fond historique qui est très, très présente. Parce que Tommy s'inscrit de plus en plus dans l'histoire, en fait, au fur et à mesure des épisodes. Il fait la grande histoire avec un H. Au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure qu'il abat des ennemis, en fait, et qu'il étend son empire. Donc voilà, je sais plus où j'allais avec ça.
Bah, que du coup, tu regardes trois séries en ce moment, t'as Peaky Blinders.
Peaky Blinders, je regarde aussi, alors ça, je suis très en retard, American Horror Story, parce que donc, je sais que ça fait des années que tout le monde me parle de cette série, qui est géniale. Sauf que je suis incapable de la regarder seule, parce que bah, je crie et fais des cauchemars. Donc. J'ai récemment emménagé avec ma coloc, Alexia, qui m'a dit « Bon, il faut qu'on s'y mette toutes les deux, parce que moi non plus, je peux pas regarder seule. » Et donc, on a commencé notre première saison.
De flippettes devant American Horror Story. Ça
non,
doit être fun.
C'est horrible, parce que vraiment, on se fait peur. Parfois, on se regarde, on fait « Bah !»
Vous êtes des gros cons.
Genre, on hurle et tout. Quand il y en a une qui commence à hurler, genre, on court dans l'appartement et tout, parce qu'on a commencé par la pire saison. On a commencé par Asylum, donc c'est sur l'asile psychiatrique. Elle est atroce, cette série. À un moment, parce qu'on fait ça le dimanche soir. Et donc, on s'est mise devant dimanche soir en mangeant. Et puis, on a regardé dès le début. Donc, Alexia a hurlé. je me suis enfuie. Elle fait, vas-y, on regarde plan cœur pendant qu'on mange. Et après, on regardera American Horror Story. Donc, ça fait une belle transition.
Bravo.
La troisième série que je regarde.
qui est donc la saison 2 de Planqueur, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc Planqueur, c'est une série française Netflix et qui raconte l'histoire d'une jeune femme un peu désespérée qui vient de se faire têche par son mec et donc ses amis lui payent
un escort boy
pour la charmer, et elle sait pas que c'est un escort boy, elle va tomber amoureuse de lui, lui va tomber amoureux d'elle, puis elle apprend que c'est un escort boy, enfin bon voilà, c'est la saison 1.
Le drama, voilà.
Le drama, c'est une série française, et du coup, c'est une série avec laquelle j'entretiens un rapport assez particulier, parce que je déteste tous les personnages, je les trouve bêtes, et... Et en fait, je critique chaque moment. Je dis, mais qui fait ça? Qui fait ci? Qui fait ça? C'est pas possible d'être comme ça et tout. N'empêche que je ne peux pas m'arrêter. C'est-à-dire que j'ai bouffé tous les épisodes. On a regardé le dernier hier soir avec Alexia. Voilà, c'est fini.
Le syndrome de Stockholm.
Plutôt le syndrome du paquet de Pringles où une fois que tu l'as ouvert,
ouais, c'est ça, t'es là. Ah, c'est vraiment dégueulasse
et
cette merde.
Et tu détestes à la fin, tu sais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Fait.
Donc voilà, j'aime bien, moi je suis une spécialiste des. J'aime bien les petites séries de doudou, de confort et tout. Et donc Planqueur, c'est typiquement une série doudou. Donc voilà.
American Horror Story bof.
Très bof, oui. C'est pour ça que j'ai regardé que 3 épisodes.
Pringles, j'ai faim.
Yes, on est sur des Pringles. Quel goût raffiné.
Paprika. Ah, les meilleurs.
Non, bien sûr que non. Meilleur, c'est bien sûr celle à la crème et aux oignons. Tout le monde le sait, cet épisode n'est pas sponsorisé par Pringles, mais j'aimerais qu'il le soit. @Pringles, donne-nous de l'argent et des chips gratuites, merci. Nous sommes de retour avec Fabrice qui mâche discrètement pas trop près de son micro. Et je vais... T'avais fini, Alix ?
Oui, moi j'avais complètement fini.
Merci pour ces 3 recos qui sont effectivement dans 3 styles très différents. Peaky Blinders, Planqueur, on confond souvent, c'est vrai que ça se ressemble. Ce n'est pas la même série, il y en a une qui est à Birmingham et l'autre à Paris, c'est facile. Petit indice, il y a la Tour Eiffel, ce n'est pas Peaky Blinders. Et moi, ma reco, ce que j'ai regardé récemment et que j'ai bien aimé, dont j'avais envie de vous parler, on en parlait tout à l'heure, c'est El Camino, le film qui signe la fin de Breaking Bad. Donc on parlait tout à l'heure de Jesse Pinkman, que j'aime d'un amour pur. Donc pour rappel, Breaking Bad, dans les années 2000, c'était une excellente série sur un prof de chimie qui apprend qu'il a le cancer. Et comme il est aux États-Unis, le cancer va le ruiner, car c'est un beau pays qui n'a pas la sécu. Et du coup, il se dit, ah, il faudrait que je gagne beaucoup d'argent pour déjà payer mes soins et mettre ma famille à l'abri parce que je vais mourir et on n'a pas d'argent et son fils, il est un peu malade et tout. Et du coup, il se dit, je vais confectionner de la méthamphétamine et vendre de la méthamphétamine à des gens accro à la méthamphétamine. Décision logique, voilà, step one, faire de la drogue, devenir un baron de la drogue. Et il s'associe pour ça à un de ses anciens élèves du lycée qui a un peu drop out et qui est devenu un petit dealer de crack, justement, de crystal meth, qui s'appelle Jesse Pinkman. Et donc, Breaking Bad, c'était 5 merveilleuses saisons de Walt et Jesse qui se détestent, qui sont genre les... Walt, c'est la pire personne, mais au début, tu le sais pas, c'est le héros, du coup, t'es là, bah, on l'aime bien, et après, t'es là... Pourquoi c'est vraiment un connard, ouais. Pourquoi il fait ça? Il arrête pas de lui taper dessus, de l'insulter à Jesse et tout. Parce qu'il le voit comme un échec personnel que Jesse n'ait pas fait d'études, parce que c'est vraiment un petit branlot avec des hoodies trop grands. Et voilà, il monte les échelons de la fabrication et du trafic de drogue. Il y a des cartels, il y a des chefs de gang et tout. C'était vachement bien. C'était une pure tragédie. Et donc, alors, spoiler d'il y a 6 ans, spoiler 2013, à la fin de Breaking Bad, pause... Tu es prête? Ok. À la fin de Breaking Bad, Walter White, donc le héros, libère Jesse qui était réduit en esclavage par un gang de néo-nazis qui l'obligeait à fabriquer de la crystal meth et qu'il avait mis, genre littéralement, il vivait dans une cage et il était enchaîné dans le labo de meth toute la journée et il dormait dans une cage et il est resté là des mois et il pouvait pas s'enfuir parce que s'il essayait de s'enfuir, les nazis allaient tuer le petit garçon de le fils de son ancienne amoureuse qu'ils avaient déjà tué la première fois qu'il a essayé de s'enfuir. Ils ont tué la meuf et ils ont dit, bah si tu réessayes, on va tuer le gosse, et du coup, il est là... Ah, hello darkness, my friend. C'était une vie de merde. Et à la fin, du coup, Walt fait le seul truc sympa qu'il a fait pour Jesse dans toute sa putain de vie, c'est qu'il le libère et il le laisse partir au volant d'une voiture qui s'appelle une El Camino. Enfin, il le libère et il lui dit, bah voilà, tu peux me buter, tu peux te venger. Jesse, il fait, non, tue-toi toi-même si tu veux tellement mourir. Et il s'en va, et il s'en va en riant comme un maboule dans sa voiture. Et on ne sait pas ce qui lui arrive, on espère qu'il finit bien. Et du coup, 6 ans plus tard, le showrunner de Breaking Bad, Vince Gilligan, a décidé de faire un film qui raconte ce qui est arrivé à Jesse Pinkman. Ça s'appelle El Camino. Donc c'est à la fois le nom de la voiture dans laquelle il s'enfuit, et ça veut aussi dire le chemin en espagnol, n'est-ce pas? J'ai fait allemand, mais c'est plutôt transparent comme mot. Et du coup, il y a tous les acteurs qui reprennent leur rôle. Donc, je vais pas vous dire exactement qui on voit parce qu'il y a un côté très fun à genre à chaque fois que tu changes de plan, t'es là, oh y a machin, oh y a machin, oh y a machin. Il y en a qui s'en sortent mieux. Du coup, El Camino, c'est qu'est-ce qui arrive à Jesse Pinkman après cette dernière scène. Je ne vais pas spoiler. Mais ça commence directement à la fin de Breaking Bad. C'est vraiment Jesse dans sa voiture. Voilà. Et du coup, ils ont repris les mêmes acteurs, mais 5 saisons après, et il y en a qui ont beaucoup changé. Il y en a qui n'ont pas changé du tout, ils ont la même tête. Et il y en a où t'es là... Ça commence à être un peu chaud de croire que c'était la même
déjà,
période.
Déjà, Jesse, il a pris des...
Bah, Aaron Paul, ouais, Aaron Paul, c'est il bon cadra, il est daron voilà. Et tout. Et, mais comme il est assez...
Il est cadra
ouais, pas loin, je pense.
Il a des bonnes pattes de doigts, hein. Tu vois, ah qu'il n'avait pas à l'époque de...
Il commence à être un peu daddy, tu vois.
Ah, baby.
Il a un peu pris de poids et tout en plus.
Oui, alors que quand il s'évade, il est voilà. Complètement émacié parce qu'il est pas très bien nourri. Ouais. Mais bon, il s'en sort à peu près avec des bails de fringues, de costumes plus ou moins réussis. Mais t'as un ou deux personnages, notamment t'en as un qui a pris beaucoup de poids depuis la saison. Et ça, du coup, c'est plus dur de. Enfin, tu peux pas perdre ce poids-là, quoi, pour juste un film. Du coup, voilà, il y a des petits moments où tu fais bon, ça marche semi-bien. Mais en termes d'intrigue, c'est trop bien. Et c'est vraiment, on dirait. Alors, c'est pas. Comment dire ça ? On dirait vraiment un long épisode de Breaking Bad, qui on dirait un genre de double finale qui te raconterait l'histoire de Jesse. C'est pas, ça part pas dans tous les sens, il y a pas genre un milliard de scènes d'action, c'est juste, ok, il est là, mais il est quand même en cavale, il est quand même recherché par la police qui sait qu'il fait de la meth, il a pas de papier, il a pas d'argent, il a pas de famille, enfin, comment il va s'en sortir ? Du coup, c'est pas garanti que ça finisse bien. Et c'était trop bien de replonger dans... C'est vraiment un bonbon, quoi, c'est le truc, t'en as pas besoin, c'est pas indispensable. Je vivais très bien avec la fin de Breaking Bad, qui était vraiment en plus considérée comme une série réussie d'un bout à l'autre, qui s'est finie au bon moment. Le mec, il a dit, moi, j'ai 5 saisons en tête, je vais faire 5 saisons. Mon histoire, elle est finie. Donc, c'était une fin très propre, pas comme d'autres séries qui ont plus raté leur fin, comme Dexter, par exemple, qui avait beaucoup déçu parce que ça avait trop traîné. Et du coup, j'aurais pu faire 100. Et quand ils ont annoncé, du coup, on va faire un film Breaking Bad sur le destin de Jesse Pinkman, j'étais là, peut-être si c'est bien, faut pas y toucher. Peut-être si ça a bien fini, faut pas nous remettre un truc en tête qui va peut-être gâcher ce beau souvenir d'une série qui a su s'arrêter quand il fallait. Et en fait, c'est vraiment réussi et ça m'a juste donné envie déjà de remater Breaking Bad parce que t'as la petite musique, la cinématographie, les décors. Donc c'est tourné, ça se passe au Nouveau-Mexique dans une ville qui s'appelle Albuquerque. Donc c'est des décors très désertiques avec des bâtiments pastels, une grosse influence latino-américaine et tout. Et juste retrouver ces persos, retrouver cette ambiance-là, j'étais là, oh oui, c'est un peu rentré à la maison. Et en plus, ça m'a un peu ému parce qu'à l'époque, j'avais regardé le dernier épisode de Breaking Bad avec Fab.
Ouais, c'est vrai.
Je venais, c'était ma première année chez Mademoiselle et j'étais allée chez Fab à Lille. À l'époque, j'habitais à Lille et Mademoiselle était là-bas et genre on avait fait des pâtes carbo et on avait regardé le final. On n'avait pas ouvert Internet de toute la matinée pour pas savoir et tout. Et on était trop à fond, hein, on était trop contents. Du coup, ça m'a un peu ému de voir El Camino. J'étais là, ouh, ça me rappelle des souvenirs. C'est sur Netflix. Donc c'est une production originale Netflix, mais avec toute l'équipe de Breaking Bad qui est de retour. C'est ça aussi qui est cool, ils l'ont pas confié à quelqu'un d'autre. Et c'est vachement cool. Si vous avez aimé Breaking Bad, vous allez aimer El Camino. Je
et Breaking Bad aussi, c'est sur Netflix, faut
oui,
le dire.
Oui, il y a
si
tout Breaking Bad
vu.
Sur Netflix, tout à fait.
Et moi, je ne peux que vous conseiller, mais je sais que t'as pas regardé, le spin-off de Breaking Bad qui s'appelle Better Call Saul.
Alors ça, j'ai essayé. Parce que, succession, j'avais pas essayé. Better Call Saul, j'ai essayé.
Mais t'as pas essayé assez.
Et c'était bien. J'ai vu 6 épisodes quand même, Fabrice. Ouais. Ouais. 6 épisodes de 40 minutes.
C'est un camino. Pour... C'est un camino.
C'est un camino. Estas en. Non.
Je vais vous conseiller bien d'essayer. Hein.
Oui, Better Call Saul qui est aussi sur Netflix. Ouais. Qui est du coup un spin-off sur le personnage d'avocat véreux qui s'appelle Saul Goodman, qui est dans Breaking Bad et qui les sort de leurs problèmes légaux de type on fait de la drogue, c'est peu légal, aide-nous. Et il est là, ok, ça va vous coûter cher. Et c'est préquel de comment il est devenu Saul Goodman.
Oui.
Mais c'est ouais, pareil, moi j'avais essayé après Breaking Bad parce que je crois que j'ai fini la série au moment où ça s'est lancé ça aussi. Enfin, j'ai dû finir juste avant. Et pour le coup, moi Breaking Bad, ça a été vraiment une histoire d'amour-haine avec cette série où j'ai vraiment dû me mettre des taquets pour la finir parce que vraiment
pour
je
la finir. Ouais. Ah ouais,
alors, elle est un peu lente au démarrage, donc enfin moi je sais que quand j'avais commencé à regarder, il y avait 2 saisons qui étaient sorties et j'étais un peu en mode, je l'ai regardée parce que j'étais en période de partiel et j'avais vraiment pas envie de réviser mes partiels. Du coup c'était mieux que de réviser, enfin, c'était moins
pas
pire
ça,
que de
faites
réviser.
Pas ça, faites pas ça.
Et j'ai eu ma licence, j'ai un travail. Faites comme vous le sentez. Les bons conseils.
Good parenting, bravo.
Et je sais que, enfin je regardais un peu en mode, pff, c'est ça ou réviser quoi, mais c'était pas un coup de cœur immédiat non plus pour moi Breaking Bad. Mais après, une fois que j'y étais, j'y étais.
Alors que moi, en fait, c'est comme au début, dans les séries, au début, tu t'attaches au personnage et que après, tu
est censé les aimer jusqu'au bout. Et qu'en fait, là, c'était complètement l'inverse. C'était une pente descendante où, au début, t'es là, oh, tout le monde a l'air plutôt sympa. Et puis, quoi? Et en fait, j'arrivais à me raccrocher à personne vraiment. Et du coup, en fait, cette série, elle me faisait, j'avais envie de savoir ce qui se passait et tout, mais j'arrivais pas à m'accrocher à quelqu'un. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu du mal à terminer. Et en fait, en regardant les premiers épisodes de Better Call Saul, c'est pareil, genre, j'étais là. Ils me prennent trop la tête, mais peut-être qu'aujourd'hui ce serait
parce que
mieux,
le destin de Jesse il est quand même très, enfin, t'as envie de l'aimer quoi, tu vois, ils en prennent
oui,
plein
parce
la gueule
que
tout le long,
c'est un petit con pendant un bon moment, mais il a pas mérité ce qui lui arrive clairement. J'ai beaucoup d'affection pour Jesse Pinkman, mais peut-être du coup regarder El Camino, c'est vraiment ça dure genre une heure et demie, tu vois, c'est très tight et c'est un très bon point final à ce qu'il y avait déjà un très bon point final. Donc, voilà, c'est un double point final. Allez, on adore la ponctuation. Est-ce qu'on passe au sujet qui nous réunit ici et qui fait qu'on a rushé la sortie de ce podcast parce qu'on avait tellement envie de parler de ce film. Est-ce qu'on parle de Joker ?
Oui.
Ok.
Donc, Joker, c'est la nouvelle adaptation, la nouvelle imagination des origines de ce super vilain qui est le méchant de Batman, tout le monde le sait, voilà.
Mais
C'est un film de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix qui était très très attendu parce qu'à partir du moment où ils ont dit « on va faire le Joker », c'est Joaquin Phoenix, le monde entier a fait okay.
J'ai un peu une demi-molle. Ça part en méthode.
Oui.
Mais Todd Phillips, c'est pas le mec qui a fait Very Bad Trip par exemple?
Et si, Todd Phillips, c'est le mec qui a fait les deux Very Bad Trip et un film qui s'appelle War Dogs, qui était aussi une comédie un peu. Bon, voilà, Very Bad Trip, c'est pas l'humour le plus fin du monde, sur des mecs qui deviennent marchands d'armes un peu semi par hasard. Donc c'est pas du tout le réalisateur qu'on imaginerait faire un film sur le Joker, mais au final, c'est vraiment du coup l'acteur qui a drainé les foules et l'attention sur ce film, qui a, et je pense que c'est peut-être la première fois pour un film inspiré d'un univers de super-héros, il a gagné le Lion d'or à la Mostra de Venise, qui est un festival de cinéma prestigieux où vraiment c'est pas les Avengers quoi qui gagnent le Lion d'or à la Mostra de Venise.
Très peu.
Du coup, c'était déjà ça a participé au buzz. Donc je vous propose, on va pitcher le film, on va parler du contexte qui l'entoure parce qu'il y a un contexte médiatique assez intéressant autour. Ensuite, on va dire ce qu'on en a pensé sans spoiler et ensuite on fera une alerte spoiler très claire avec genre des bruits de sirènes qui font piou piou. Et là, tu sauras que si tu ne veux pas qu'on te spoil Joker, tu pourras arrêter l'épisode et revenir quand tu auras vu le film. C'est parti. Alors, le pitch de Joker, c'est donc l'histoire d'un... Pour le coup, le Joker a une identité et un nom, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des itérations du personnage. Il s'appelle Arthur Fleck, il a la trentaine, je pense. Ils ont essayé de lui donner à peu près cet âge-là, même si Joaquin Phoenix est plus âgé. Il vit à Gotham City, il est pauvre, il souffre de maladie mentale. C'est jamais trop précisé, je crois, le nom de sa maladie mentale. Mais il souffre d'une maladie mentale qui fait notamment que quand il est en proie à des émotions fortes ou à un stress fort, il rit sans pouvoir se contrôler. Et c'est la première scène du film, d'ailleurs, c'est lui qui est chez sa psy du service public et qui a un fou rire très douloureux où on sent qu'en fait il est pas du tout en train de s'amuser parce que c'est ça, quand il a des émotions et ou qu'il est stressé, il rit. Son boulot c'est d'être clown pour des magasins ou des hôpitaux pour enfants.
Enfin, ouais, en fait il est dans une agence de clown où j'ai l'impression qu'il les envoie un peu partout. Donc c'est soit il fait les devantures de magasins, soit les hôpitaux pour enfants et tout.
Donc c'est pas un boulot qui paye très bien et non. C'est un boulot qui est pas très bien fréquenté. Enfin, on sent que ses collègues, c'est aussi un peu des marginaux et des paumés comme lui. Mais même là-dedans, finalement, il s'intègre pas très bien parce que voilà, il est spécial comme garçon. Et il vit avec sa mère dans un petit appartement. Voilà, ils sont vraiment dans la misère. Sa mère, c'est une vieille dame qui est aussi malade. Enfin, clairement, elle peut pas vivre toute seule. Donc c'est ça sa petite vie. C'est déjà plutôt le seum. Et le film, c'est l'histoire de comment ce personnage va descendre petit à petit dans une spirale de folie jusqu'à devenir la figure du Joker telle qu'on la connaît, avec les cheveux verts, avec le maquillage. Alors c'est un look qui est encore différent de tous les autres Jokers qui ont précédé, et tant mieux, puisqu'on n'est pas là pour revoir la même chose. Et le film entier, c'est juste Joaquin Phoenix qui le porte sur ses épaules comme pas permis. Quoi.
Ah bah ça c'est clair. Enfin, ouais.
Grosse perf. Et du coup, pourquoi il y a un contexte intéressant autour du film ? C'est parce qu'au-delà du fait qu'il a eu des prix prestigieux, notamment pour une œuvre adaptée de l'univers DC Comics, c'est qu'il a fait polémique avant de sortir, puisqu'il y a eu les premières personnes qui l'ont vu, notamment à Venise, où c'était sa première projection. Il y a eu des échos comme quoi ce serait un film qui glorifie la violence, qui glorifie des courants extrémistes, notamment américains, donc comme ce qu'on appelle l'alt-right, c'est une frange d'extrême droite très présente en ligne qui draine beaucoup de jeunes hommes blancs qui se sentent rejetés par la société, qui se sentent marginalisés et qui parfois en arrivent à commettre des actes de violence. Il a été rapproché du mouvement des incels, donc les involuntary celibate, qui sont une autre frange de mecs qui eux souffrent du fait de ne pas avoir de succès avec les femmes et qui parfois, pour certains, font des actes terroristes aussi, comme c'est déjà arrivé aux États-Unis et au Canada. Donc voilà, le film a été soupçonné de glorifier la violence et de pousser à l'acte des gens qui se sentiraient déjà une forme d'écho dans le personnage du Joker. Et ça a été aussi amplifié par le fait que, quand The Dark Knight Rises était sorti, il y avait un mec qui se faisait appeler le Joker, qui avait fait une fusillade dans un cinéma Aurora aux États-Unis pendant la projection. Et du coup, l'idée, c'est en fait, on a déjà des gens qui s'identifient au personnage du Joker, qui tuent des gens. Est-ce qu'on pourrait ne pas faire un film qui dit peut-être que le Joker a raison, au fond ? Donc c'était tout un contexte où le film a fait une grosse grosse polémique avant même de sortir, quasiment personne ne l'avait vu, et il y avait déjà des articles, des contre-articles, des opinions, des contre-opinions, des vidéos sur YouTube, j'étais là, mais personne ne sait, vous n'avez pas vu le film. Donc j'y suis allée avec ce contexte en tête de, est-ce que effectivement c'est un film dont tu sors en te disant, il a un peu raison, puisque le Joker c'est un terroriste, c'est vraiment un mec qui tue des gens, qui fait des tueries de masse, qui pose des bombes, qui c'est pas un mec à qui t'as
enfin,
envie
dans l'univers,
Batman,
pas dans le film.
Oui, pas dans le film, mais en général, voilà, c'est un personnage qui est un antagoniste très clair, c'est un agent du chaos qui veut foutre la merde et qui a aucune empathie pour la vie humaine en général, donc effectivement, c'est pas une bonne idée de faire un film qui dit « il a un peu raison quand même », parce qu'il y a déjà assez de gens, surtout aux États-Unis, qui sont mentalement fragiles et qui ont accès à des armes à feu, et du coup, bah moi j'ai pas du tout trouvé que le film encourageait la violence. On en parlera plus en détail en spoiler, mais je peux vous rassurer si ça vous fait peur au moment d'y aller. Déjà il est pas très violent, il y a pas énormément de sang dedans.
Moi j'ai été très surprise en fait en découvrant le film que il y a quelques scènes vraiment hard, mais sinon ça reste quand même assez soft. Enfin, c'est violent dans le sujet, c'est brutal, c'est ça fait froid dans le dos, mais c'est pas.
Alors, si on compare,
c'est pas un Tarantino, quoi. Enfin.
Ouais, mais si on le compare aux autres films de super-héros, par exemple, et tout à la clique Marvel, etc. Et même à Dark Knight Rises, etc.
Oui, oui.
En fait, il y a des moments de violence qui sont ultra violents et très graphiques.
Par exemple, dans The Dark Knight, donc où il y a le Joker qui est incarné par Heath Ledger, il y a un moment où il fait un tour de magie, avec des guillemets, pour faire disparaître un crayon.
Ah ouais.
Et en fait, il pose un crayon à la verticale sur une table. Il dit à un mec, tu veux voir un tour de magie, je vais faire disparaître le crayon. Et il lui éclate la tête sur le crayon, et du coup, le crayon traverse son crâne.
Ah,
pour moi,
c'est
ça, c'est mille fois plus violent que tout ce qu'il y a dans ce nouveau Joker. Et c'est juste une scène comme ça pour te présenter le bonhomme. Quoi.
Oui, ça dure une demi-seconde, cette scène. Mais je me souviens que j'étais. En fait, elle te prépare à rien, quoi. Genre,
oui,
fait, tu veux que je te montre Emma là et pas comme ça et enfin
oui, j'entends.
Il y a une préparation. Il attache un mec sur une pile de billets, il y fout le feu, il brûle le mec vivant. Enfin, il y a quand même dans Dark Knight des choses, et sans même parler de la violence que Batman commet, parce que quand même le mec il tue personne, mais bon, il a dû envoyer pas mal de gens dans des fauteuils roulants à vie. Mais même la violence du Joker, je trouve qu'il y a des films où il est beaucoup plus. Autant dans les versions de Tim Burton, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de sang parce que c'était pas le.
Ouais.
Enfin, c'était Jack Nicholson qui était plus en mode parrain de la mafia, et je pense qu'on le voit pas forcément commettre des crimes très violents.
Surtout, il est très machiavélique, beaucoup plus que là, en fait. Le Jack Nicholson, il est. Voilà, il a un côté très super vilain, mais vraiment au sens de chef de mafia, alors que là, c'est vraiment les origines du Joker.
Oui, il est le Joker, c'est
où
ça.
Où il était, en fait, complètement rejeté de la société. Donc, il a l'impression de ne pas exister, en fait. C'est l'idée du film.
J'ai amené mon enfant, qui a 13 ans, donc en fait, j'avais vérifié auparavant si c'est interdit au moins de 12. J'avais demandé à Mimi, est-ce que tu penses que c'est cool ou pas pour Lina, parce qu'on a tendance à aller voir tous les films de super-héros ensemble, quoi. C'est un peu notre truc. Et en fait, c'est marrant parce que je lui avais un peu prévenu en lui disant, en fait, le film, il est un peu dark. Si tu te sens pas bien, si tu te sens oppressé et tout, tu le dis et puis on y va, quoi, tu vois. Et en fait, en partant, elle m'a dit, en fait, en vrai, je m'attendais à plus violent que ça, hein. J'ai fait, ok, peut-être.
Ouais,
peut-être sociopathe,
que...
bonjour.
J'ai perdu ta pureté si tôt.
En fait, moi, je la comprends parce que, en fait, comme il est toujours sur le fil de la folie, en fait, on est toujours préparé à ce qu'il se passe quelque chose. Alors que, justement, dans The Dark Knight, moi, Heath Ledger, vraiment, quand il faisait ces choses-là, je n'étais pas prête. Et c'était d'autant plus violent, en fait, que c'était d'un coup comme ça. Tu savais qu'il était fou, mais tu savais pas quand ça arrivait. Alors que là, je trouve que t'es toujours, quand il te regarde, tu te
ouais,
dis...
Ouais, il y a des longs plans avec, du coup, Joaquin Phoenix qui est limite en regard caméra ouais. et où t'es là en mode, non, merci, monsieur. J'ai un petit peu peur de vous. Ce qui ouais. est cool parce que c'est ce que t'es censé ressentir et c'est aussi un signe que le... En fait, c'est pas parce que le film explique ou tente d'expliquer comment est-ce qu'on peut sombrer dans une folie meurtrière qu'il l'excuse ou qu'il le glorifie. Mmh. Et pour moi, mais en fait, j'ai trouvé que les scènes où la société est violente envers le personnage d'Arthur qui devient le Joker était beaucoup plus dur à regarder que les scènes où lui il est physiquement violent envers des gens parce que déjà il y a un bon moment du film où bah il a une vie de merde, c'est ouais. ça le film, c'est Arthur Fleck, une vie de merde où du coup le monde entier lui chie dessus et il se passe un bon moment avant qu'il commence à riposter et attaquer des gens et du coup c'est juste mais une cascade de seum.
Ouais,
le film il s'ouvre, il se fait agresser gratuitement, tout le monde se fout de sa gueule, sa vie elle est nulle, son appart il est nul, sa mère elle est bif bof, tu sens que c'est médiocre, c'est triste, c'est juste vraiment
et puis...
d'une tristesse à crever quoi. Et ça j'ai trouvé ça plus dur à regarder que oui les quelques moments à base d'armes à feu où il finit par...
Personne lui vient en aide aussi, il y a ce vrai truc de ouais. personne l'aide quand il se fait tabasser la gueule, il se fait engueuler par son patron parce qu'il s'est fait tabasser la gueule,
personne
et qu'il
le
a perdu
croit.
Le panneau enfin, tu vois c'est ridicule, il dit je vais te l'enlever de ton salaire et tout, c'est horrible à quel point il est seul et que il y a personne qui vient l'aider. Et pour moi c'est ça aussi le... C'est ce fameux truc de lien social, en fait. Il finit par se dire, mais en fait, ça sert strictement. On en reparlera plus longtemps, plus longuement dans la partie spoiler, n'est-ce pas? Mais je pense que c'est ça aussi qui finit par le rendre complètement taré. C'est que les liens aux autres n'ont plus aucun intérêt, quoi. La violence, elle est là pour moi.
Mmh. Oui, carrément. Et je pense que ça, c'est un motif récurrent de Gotham City dans l'univers DC. C'est que la première question à se poser, c'est pourquoi les gens habitent là? Qui aurait envie d'habiter à Gotham? Parce que on dirait le New York malfamé des années 80. Et d'ailleurs, le film Joker est très, 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 très visuellement marqué par des œuvres comme notamment Taxi Driver, où c'est vraiment... Je sais quelque peu, je vais pas dire que c'est du plagiat parce que c'est très clairement un hommage et le réel s'en cache pas, mais c'est vraiment, il y a des plans, tu pourrais mettre De Niro à la, oui. c'est marrant parce qu'il y a De Niro dedans.
Oui,
qui joue un présentateur télé que Arthur Fleck et sa mère regardent tous les jours. Et tu peux remplacer Arthur Fleck par De Niro et remplacer les affiches Gotham City par New York City et c'est bon, t'y es, quoi. Et du coup, il y a cette vraie réflexion de est-ce qu'on peut survivre à Gotham en étant marginalisé sans péter un plomb? Et c'est toujours la question qui est autour de l'univers Batman, c'est est-ce que Batman crée ses propres super vilains? Parce qu'en fait, il utilise son argent à être un zinzin perché sur des toits avec des grappins, au lieu de genre faire des aides sociales ou des trucs qui seraient peut-être plus utiles à la société. Ouais. Ou limiter les armes à feu. Et c'était un thème que Dark Knight Rises avait essayé d'aborder par le personnage de Bane, qui en fait... motiver les citoyens à une sorte d'insurrection, mais ça marchait pas très bien parce que le personnage ne comprenait pas trop ce qu'il cherchait et c'était très clairement un plan, enfin c'était pas ce qu'il pensait quoi, c'était une technique de manipulation, alors que là ce Joker là il vit la violence de la ville et de la lutte des classes même très très frontalement quoi, là où Bane il débarque de je sais pas où et il est là bonjour j'ai des opinions, non je fais très mal Bane
bonjour j'ai des opinions,
c'est le pire Bane, je me souviens plus vraiment de sa voix. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur Joker?
Ouais, moi j'ai une toute petite nuance, parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé le film. Simplement, je trouvais que c'était... ça m'a fait penser au film Jackie, je ne sais pas si vous vous en souvenez de ce film. Un tout petit film avec Natalie Portman, donc qui jouait la femme de Kennedy, donc
ah oui.
Jackie Kennedy. Et donc le film s'appelait Jackie, c'est un réalisateur Pablo Larraín que j'adore. Et du coup, je suis allée le voir, mais vraiment surexcitée. Et en fait, bon, bah, au-delà de... C'est un film à rôle pour moi. Enfin, c'est en ça que ça m'a fait penser à ça, c'est que c'est un film à rôle. C'est-à-dire que sans Joaquin Phoenix, ce film est plutôt banal. Enfin, il n'y a pas de oui. twist, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de grands scénarios, il n'y a pas de grandes réalisations même. Et je trouve que ça repose énormément sur Joaquin Phoenix, qui est donc a fait la méthode de l'acteur studio pour ce film. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est complètement imprégné du personnage et donc il n'a pas quitté son rôle pendant tout le temps du tournage.
Ça devait être sympa de traîner avec lui à ce
moment-là. Génial. Et surtout, il a perdu énormément de poids. Enfin bon, voilà, il a fait un gros travail, mais c'est un spécialiste de ça. Donc vraiment, c'est pour ça aussi que la hype était énorme au niveau de ce film, parce que vraiment, Joaquin Phoenix, quand on sait qu'il fait des trucs à fond, quoi. Donc voilà, et c'est vrai que c'est juste la toute petite touche que je trouve... Voilà, je pense que ça aurait pu être un plus grand film si ça avait été moins centré sur lui, enfin, moins porté que par lui, en fait. Et tu vois, par exemple, je me souviens dans Suicide Squad aussi, donc il y a un Joker qui est incarné par Jared Leto. Donc au-delà du film, bon, j'ai mon propre avis, discutable sur le film, mais on avait dit que Jared Leto avait fait pareil la méthode Actor Studio pour incarner le Joker. Bon,
Ils l'ont coupé au montage, en vrai. Il a, je pense, 5 minutes d'apparition dans un film qui fait plus de 2 heures. Donc je pense qu'il y a tout un boulot qu'il a fait sur ce personnage qu'on ne voit pas et qu'on n'a pas vu et qu'on ne verra jamais.
Mais même, en fait, ça aurait pu ressortir dans les quelques scènes qu'ils lui ont laissées. Sauf que, en fait, même dans les quelques scènes, c'est un... Enfin, pour moi, le Joker dans ce film-là, c'est un pimp. Enfin, c'est un...
Oui, c'est ça. C'est un gangster. Il est en club avec sa go en micro-barésie sur les genoux. Il a des flingues partout, des tatouages partout. Des dents en or. Ce qui est aussi une interprétation plutôt moderne et qui aurait pu être intéressante en soi de... Ok, le Joker plus intéressé par les plaisirs de la vie, on va dire, clairement. Mais en soi, moi, j'étais pas forcément contre cette idée-là. C'est juste qu'on la voit si peu que c'est juste... Ouais, pourquoi il y a le Joker avec un grill en or dans un club à striptease, quel est le projet, je ne sais pas. Mais comme il a pas vraiment d'histoire dedans, peut-être qu'ils... Mais je pense qu'ils vont... Il va y avoir une suite, il me semble, à Suicide Squad. On est dans les limbes de la production, des bails, de rachats et tout. Suicide Squad, c'est déjà très compliqué.
Ouais.
Peut-être qu'on reverra le Joker de Jared Leto avec plus de screen time pour comprendre un peu son interprétation du personnage.
Mais ouais, mais du coup, avec ce film-là, je pense que c'est...
Déjà que le pauvre, j'ai pas d'empathie spéciale, mais Jared Leto s'était fait allumer pendant 1000 ans pour son interprétation du Joker dès les premiers visuels où il a tatoué Damage sur le front. Les gens étaient là, oh putain, c'est horrible, on dirait un clip d'Avril Lavigne, le truc. Et du coup, le film était pas bien, ce qui est pas 100% de sa faute, hein, clairement.
Non,
le film, c'était
clairement, il est pas dedans,
à tous
donc
les niveaux. Et là, t'as Joaquin Phoenix qui fait le perso, t'es là, je suis fatiguée.
Le
pauvre. Je vais aller faire du rock habillé en blanc avec mon groupe, là. Me faire lécher les pieds par des groupies, ça va être mieux. Mais oui, je pense que c'est très compliqué de passer derrière. Mais c'était déjà compliqué de passer derrière Heath Ledger et Jared Leto partait déjà un peu perdant. Mais Heath Ledger lui-même, quand il avait été annoncé en Joker, il y avait un gros backlash de la part des fans qui étaient là, oh, mais c'est un acteur à midinette, parce qu'il avait fait plein de teen movies et plein de séries un peu romantiques et des trucs genre chevalier. Et personne ne croyait à Heath Ledger en Joker. Et il s'en est très bien sorti. Pour le coup, Joaquin Phoenix, tout le monde était là. D'accord, ok,
oui,
on signe parce qu'il a plus de bouteilles et que tout le monde sait qu'il joue comme un zinzin. Mais je suis d'accord avec ce que tu veux dire dans le sens où, en fait, je crois que c'est. Il y a Danny Caligula qui a fait une vidéo vachement cool sur le Joker, sur le film, que je vous encourage à aller voir. Il y aura le lien dans la description. Et il me semble que c'est lui qui dit en fait, c'est une. En gros. Imagine, t'es un scénariste ou t'es un réal, tu veux faire ce film, tu veux raconter l'histoire d'un mec qui est tellement violenté par une société malade qu'il en finit par lui-même vriller et attaquer les gens. Bah, soit tu fais un petit film avec pas trop de budget, tu l'appelles The Killer, ça se passe à New York et personne va le voir parce que la lutte des classes est chiant. Soit tu mets un autocollant, salut c'est Joker, vous connaissez les super-héros, vous aimez bien ça, il y a que ça qui est financé en ce moment. Et tu mets un acteur, et du coup t'as un acteur aussi incroyable que Joaquin Phoenix parce que les gens veulent déjà voir ce film parce qu'il s'appelle Joker. Mais effectivement, c'est. T'enlèves le mot Gotham et la référence au Joker, c'est un film qui s'appelle The Killer et qui est sur un mec qui pète un câble, quoi.
Ouais, c'est clair.
Ouais, c'est clair.
Et pour moi, le film, il vaut pour ça, parce que c'est une histoire qu'on n'a pas souvent vue racontée, en tout cas de cette façon-là, quoi, avec un acteur aussi fort que ça, quoi.
Oui, carrément.
J'en attendais pas plus que ça, quoi. Tu vois, encore une fois, ma fille est sortie de là en disant, je pense qu'on l'a pas assez vu en Joker, tu vois. Elle était un peu déçue. Elle aurait bien aimé le voir plus, avoir plus d'action peut-être et tout. Et je lui disais, c'est tout le principe du film, en fait. C'est de voir la montée en puissance et qu'il faut prendre le temps, justement, de se rendre compte à quel point il est en train de tourner zinzin parce que en fait il en a pris plein la gueule, quoi. Et si il passe d'un plan à l'autre de moi ça va, je suis avec ma daronne, à je finis par buter tout le monde, tu comprends pas, quoi. Tu dis ok, qu'est-ce qui s'est passé entre deux, quoi.
Ouais, c'est clair. Bon, après j'en parlerai plus dans la partie spoiler, mais moi il y avait des trucs que je voulais et que j'ai pas eu.
Ok, nous verrons. Et après, la grande question, c'est du coup, est-ce qu'on reverra ce Joker ? Parce que très officiellement, c'est un one-shot, c'est un seul film. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'histoire étendue, etc. Mais il fait énormément d'argent. Et les films qui font énormément d'argent, même s'ils disent, il n'y aura pas de suite, il n'y a pas de suite, c'est un seul film. T'es là, oui, bien sûr, surtout dans les univers de super-héros. Donc il est possible, alors c'est pas, il n'y a aucune info, mais je ne serais pas étonnée si dans les mois ou l'année à venir, ils disent, ok, on a réussi, on a signé un deal, Joaquin Phoenix revient, à la limite en second rôle, parce qu'il va du coup y avoir un nouveau Batman incarné par Robert Pattinson. J'ai très hâte. Normalement, ça n'a rien à voir. Les deux films ne sont pas corrélés. C'est même pas forcément le même studio parce que c'est très compliqué ces histoires de prod et de qui a les droits de quoi. Mais tout comme il y a eu tout un bail de « Ah, il n'y aura pas Spider-Man dans Avengers, en fait. Si finalement, il y a Spider-Man dans Avengers, mais que pour un film, non, en fait, on va le mettre dans deux. Ah, au fait, il va être aussi dans Civil War. Ah, il n'y a plus Spider-Man dans les Marvel. » Si, en fait, il y aura toujours Spider-Man dans les Marvel parce que les gens veulent voir Spider-Man dans les Marvel parce que ça fait de l'argent et c'est cool. Peut-être qu'on reverra ce Joaquin Phoenix, ne serait-ce qu'en 5 minutes dans un Batman un jour ou dans un film sur les super-vilains de DC, je sais pas. Ça m'étonnerait pas que... Je pense que si ça se fait pas, c'est vraiment que Joaquin Phoenix, il a pas envie. Ce qui peut être le cas parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, surtout un peu prestige, qui évitent justement de jouer dans les trucs de super-héros parce qu'ils veulent pas signer des contrats.
Moi, c'est vraiment le seul truc qui me fait dire qu'il y en aura peut-être pas un deuxième. Mais
moi,
sinon,
si ça, je pense que si ça devait lui faire perdre à chaque fois 20 ou 30 kilos comme il le fait là, si tu veux, pour jouer juste 5 minutes, il va faire mec. Pas possible, quoi.
Après, ça dépend son cachet, hein, tu sais.
Il faut bien payer les vacances. Bon.
Ça doit être violent pour le corps, n'empêche.
Les trains, là, la SNCF, ça coûte très cher. Et pour voilà, Noël, exactement. Peut-être qu'il veut rentrer chez ses parents pour Noël. Ok, je pense qu'on a fait le tour de la partie sans spoiler de notre critique du Joker. Oui. Je pense qu'on peut dire qu'on le recommande.
Oui, chaudement.
On donne une note ou pas, comme dans les vrais...
Ah, tu veux donner une note ?
Non, pas du tout.
Ok, si, on peut donner une note. Tu veux donner une note sur 10 ?
Non, pas du tout.
Cool. Super.
C'est une
question. J'aime pas trop les notes parce que j'ai tout le temps envie de... Enfin, a priori, dans ce podcast, on va parler que de films qu'on aime bien.
Bah, moi, j'ai envie de mettre 10 à tous les films que je regarde.
Bah voilà, tu vois, genre en plus, quand c'est frais... Enfin, celui-là, il était cool et il est très frais dans notre esprit. Et du coup, moi, j'ai un peu ce côté où je sors du ciné, je suis là... C'était trop bien, j'adore le cinéma, c'est vraiment génial. Et 10 jours après, je suis là, ok, peut-être que c'était perfectible, il faut que je redescende. Là, ça va, ça fait 5 jours, mais potentiellement, si on commence à mettre des notes, je vais juste être la meuf qui met 12 sur 10 à tout le monde. Et je n'aurai aucune crédibilité.
Bravo pour cet enthousiasme, Mimi.
J'aime bien les films, c'est cool. À partir de maintenant, on va spoiler l'intégralité du film Joker. Donc, dernier appel, si tu ne l'as pas vu et que tu ne veux pas te faire spoiler, je te conseille de ne pas te faire spoiler et de revenir plus tard, du coup, pour écouter la fin de ce podcast. Si tu l'as vu, bienvenue, mets-toi à l'aise, reste avec nous, tout va bien.
Ok.
Ok.
J'ai une question pour commencer peut-être cette partie spoiler. Qu'est-ce qui, selon vous, fait vriller vraiment le Joker ?
Bah, il coupe les subventions, du coup, il a plus de médoc. Pour
tu
moi, c'est
ça.
C'est ça. Bah, en fait, il a plus de médoc et genre quelques jours après, il bute les gars dans le métro. Et pour moi, c'est un moment hyper important du film.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Qui est vraiment pour le coup lié à des problématiques très réelles de la société actuelle et notamment américaine, qui est en fait, t'as une personne avec des maladies mentales et pour des histoires d'argent bêtes et méchantes, la société l'abandonne. Et du coup, il était sous sept médocs différents. Le film met assez d'attention à te dire, il prend des médocs, il en prend beaucoup, sa psy elle lui dit, on peut pas vous en donner plus, vous en prenez déjà beaucoup, on le voit, souvent avec des boîtes de cachets, à chaque fois qu'il remonte chez lui, il remonte avec son sachet de la pharmacie. Et un jour, il a plus ses médocs, et pour moi, c'est ça qui fait qu'il vrille.
Ok.
Moi, c'est parce que, oui, alors à ce moment-là, il vrille. Mais pour moi, il vrille de manière assez naïve et sans... Le moment où il devient le Joker...
Pour moi, il vrille de façon spontanée.
Spontanée, voilà, exactement. Il a un gun sur lui, c'est de la défense un peu.
Il bute ses mecs parce qu'ils viennent lui tabasser la gueule, très clairement.
Ah oui, c'est de là. Il les tue en... Alors, en tout cas, le premier, il le tue en légitime défense. Voilà. Celui qui court sur le quai, à mon avis, devant un tribunal, ça passe bif-bof. Mais oui, ils sont en train de l'éclater au sol.
Et puis, il ressent sa puissance à travers ça. Donc, ça participe, je pense, à sa vrille. Moi, le moment où je me suis vraiment dit... C'est bon, là, c'est le vrai Joker. C'est sa rencontre avec Batman, en fait. C'est sa rencontre avec... c'est ce moment-là où, genre, il le voit. Et donc, c'est son demi-frère ou ça ne l'est pas. On ne sait pas. Et en fait, c'est ça que j'ai bien aimé dans le film, c'est que, sur ce point, c'est vague. Et je trouve qu'il y a des choses qui font que... Bon, bref, j'en parlerai plus après, je m'éloigne un petit peu. Du coup, pour moi, c'est à ce moment-là où vraiment il devient Joker, où il va voir son père, lui demande de l'aide, et même son père ne veut pas l'aider. Et là, il n'y a plus rien.
Droite en plus.
Ouais. Okay. Et il n'y a plus rien qui n'existe pour lui, quoi.
Alors, c'est marrant parce que pour moi, le point final, c'est sa daronne. Parce qu'en fait, jusque-là, il continue à aller voir sa mère, à l'hôpital, elle est malade. Et en fait, tu sens encore de l'humanité chez lui. Il y a encore un truc de, ok, en fait, ma mère, elle est malade et c'est triste. Et même s'il a pu ses médocs, et même s'il a déjà buté ses mecs assez tôt, en fait, dans le film, l'air de rien. Alors certes, il se réjouit un peu de tout ce qui est en train de se passer. Donc, t'as ce côté de narcissique qui est un peu fucked up, qui commence à monter en lui. Mais il est toujours dans ce truc de, en fait, j'ai ma mère qui s'occupe de moi et qui est là et dont il faut que je m'occupe aussi. Et pour moi, le...
Oui, c'est sa grande fierté de s'occuper de sa mère.
Voilà, c'est... tu vois, il a ce truc de... Et puis en fait, c'est sa mère. Enfin, tu vois, il a un lien avec elle aussi. Et je pense, moi, de ce que j'ai lu du film, alors encore une fois, je l'ai vu, il faudrait le revoir sans doute, mais effectivement, il y a le truc qui monte. Et pour moi, le truc qui le fait vriller, c'est sa daronne, dont il se rend compte en fait que toute sa vie est un mensonge depuis le départ. Et d'ailleurs, en fait...
c'est quand il rencontre son père.
Son fameux
mais cela dit, c'est en double rencontre, parce que d'abord, il se rend compte que son père, c'est Thomas Wayne, selon sa mère, ou enfin qu'elle lui écrit « il faut que tu t'occupes de ton fils » et tout. Donc là, déjà, il vrille, enfin, il s'engueule avec sa mère et tout. Et ensuite, ça aussi, c'était un mensonge. En fait, non, elle est folle, était adoptée. Donc c'est genre une longue semaine dans la vie d'Arthur Fleck, qui était déjà pas en forme.
Et pour moi, le moment où il vrille, c'est le moment où il bute sa mère. C'est-à-dire que quand il l'étouffe de façon très... alors là, pour le coup, il n'est pas dans la légitime défense. Enfin, tu vois, il est pas... Il est
elle
pas,
était peu agressive.
Il n'est pas du tout. quand il décide de lui enlever... La façon dont il enlève l'oreiller, qu'elle tombe la tête sur le lit, là, comme ça, de façon un peu brutale. Et qu'en fait, juste... Alors, tu ne le vois pas, mais tu sens très bien qu'en fait, il est dans un truc de... pure vengeance et de folie meurtrière, là. C'est juste, en fait, tu m'as menti toute ma putain de vie, je me suis occupé de toi et t'as fait toute de ma vie un mensonge. Et le seul truc qui me raccrochait quelque part à l'humanité, c'est toi, en fait. Et même toi, en fait, t'es juste une grosse ordure qui m'a menti et effectivement qui m'a battu en plus, parce qu'en fait, ça lui remonte.
Oui, bah oui.
Tous les...
C'est pas elle qui l'a battu.
Non, mais, elle l'a pas protégé.
Oui, oui.
J'ai toujours ce coaching, j'ai toujours ce podcast de coaching que j'adore écouter aux US, où le mec parle du fait qu'en tant qu'enfant, on attend trois choses de nos parents. D'être protégé, d'être aimé, bien sûr, et d'appartenir à quelque chose. Donc à une famille ou à un groupe ou peu importe.
C'est quoi ton podcast ?
Ça s'appelle Reboot. J'en ai un peu parlé dans LMK, mais ça s'appelle Reboot, R-E-B-2-O-T, où t'as des séances de coaching, en fait. Et ce mec revient très régulièrement là-dessus. Et pour moi, il y a ces trois trucs qui disparaissent, en fait, d'un coup d'un seul, quand il découvre ce mensonge-là, et qui, pour moi, c'est vraiment le moment où ça le fait vriller, quoi. Alors, effectivement, tout le reste...
Tout participe, c'est normal qu'il y ait plusieurs moments.
Les médocs, les machins, effectivement.
La façon dont il perd son job aussi, où son collègue lui donne un flingue et il est là, vraiment dans ma situation, j'ai pas le droit d'avoir de flingue à son collègue. Là, c'est pas grave.
Et puis
tu
après,
me le rendras bien. Et après, il le jette sur le bus en mode, je sais pas d'où il a eu ce flingue.
Ouais.
Moi, il m'a dit qu'il en avait un, c'est dangereux et tout. Il y a tout qu'il abandonne. Mais je suis d'accord que sa mère, c'est le dernier domino. On est d'accord que. Il va... Alors du coup j'ai un trou. Toi, est-ce qu'il va voir Bruce Wayne après ou avant avoir tué sa mère?
Non, il
va voir Bruce Wayne avant.
Avant d'avoir tué sa mère, il bute sa mère et après il bute son collègue.
Ouais.
Oui. Non mais je me disais, est-ce que la gifle de Thomas Wayne c'est avant ou après le décès de sa mère?
C'est avant.
Ok, il me reste potentiellement ce dernier espoir-là d'avoir une famille et finalement non.
Non parce qu'en fait il bute sa mère quand il se rend compte qu'elle lui a menti surtout.
Oui.
Quand il récupère le dossier quoi.
Moi c'est ça que j'ai bien aimé en fait, c'est ce moment où tout flotte où tu sais pas qui croire parce que en fait il y a quand même bien des indices qui disent que elle l'a adopté, mais il y a aussi des indices qui disent qu'il l'a pas adopté parce qu'il retrouve, tu sais, derrière la photo à un moment il retrouve une photo de sa mère avec un mot de Thomas Wayne qui dit t'es trop belle, je t'aime,
un si joli sourire ou quelque chose comme ça, et c'est signé TW.
Donc voilà, en fait, il y a ce truc de flottement que moi j'ai bien aimé, où t'es là, je sais pas qui croire et tout, et il y a des moments dans le film où justement j'ai trouvé que ça flottait pas assez, et où c'était un peu trop obvious, on disait, regarde, non mais là il délire, par exemple, quand la meuf, il rentre dans le salon de cette meuf, je sais même plus comment elle s'appelle, sa voisine. Une femme très jolie sur laquelle, en fait, on se rend compte qu'il fantasme depuis le début, alors qu'on pensait qu'il était avec elle. Et en fait, donc, elle est surprise. Et donc, moi aussi, j'étais surprise. J'étais là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ils ont fait des flashbacks où ils ont supprimé la meuf des scènes. Et j'étais là, en fait, il n'y avait pas besoin de ça. T'as juste besoin de nous laisser un peu dans le flou. Et c'est ça que j'ai trouvé que la réalisation n'était pas ouf.
Okay.
C'était
ça,
un peu
c'est
trop
vraiment
appuyé.
Le seul moment où je me suis dit, ok, le film là, il nous prend un peu trop par la main.
Alors,
c'est évident qu'elle dit, mais t'es qui? T'es pas le mec chelou qui habite dans mon, enfin, dans le même, sur le même palier. Du coup, pour moi, c'était évident que, ok, il a halluciné tout ça. Mmh. Et on pourra peut-être en parler un peu plus parce que j'ai pas trop compris l'intérêt de cette fausse romance dans le film. Mmh. Même si j'aime beaucoup l'actrice pour le coup qui est top, qui est Zazie Beetz, qui jouait notamment dans Deadpool 2 et dans Atlanta. Qui est
ah oui,
cool.
C'est elle dans Deadpool oui, 2. Je l'ai.
Mais pour moi, effectivement, quand le film te remet tous les flashbacks avec elle en l'enlevant des flashbacks, ouais. Je suis là, ça va, on a compris.
On a alors,
un truc. En plus, c'est un motif cinématographique avec lequel on est assez familier. On a tous vu, spoiler de 2004, je pense, on a tous vu Fight Club, etc. Donc on peut comprendre, ok, ce personnage-là était imaginaire. En tout cas, leur relation est imaginaire, la meuf existe vraiment. Donc, mais c'est, je pense, le seul moment où je me suis dit, c'est un petit peu trop. Après, il y avait des scènes qui étaient plus... Bon, je vais m'arrêter là, cette phrase est trop longue.
Voilà. Je pense que c'est pour aider, c'est pour rendre le film encore plus grand public. Parce que typiquement, j'étais avec Lina et elle a compris à ce moment-là. En fait, sans cette séquence-là, je pense qu'elle n'avait pas la finesse du truc de OK, en fait, what happens, qu'est-ce qui se passe. Enfin, tu vois, elle ne l'avait pas pigé, quoi.
Parce qu'il y a un autre moment où, en fait, moi j'avais remarqué, j'avais commencé à tiquer à ce moment-là, c'est quand les policiers vont le voir, ils font ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu votre mère? Et il fait je sais pas. Et c'est là que je me suis dit. Oula, la distorsion du temps, elle est présente. Et c'est là que je me suis dit, oh, d'accord, ok. Donc là...
Oui, parce qu'il vit avec elle et il a pas trop d'autres
endroits. En fait, elle était à l'hôpital, tu vois, mais on avait l'impression qu'il l'avait vu la scène d'avant. Donc en fait, je me suis dit, ah ok, il y a 3 semaines qui sont passées là. Enfin,
oui, au final, t'as très peu de repères temporels dans le film, à part, à la limite, les actualités, où tu te dis, bon, bah voilà, ça se déroule pas pendant 2 ans, quoi, le truc. Mais bon, voilà, c'est une révolte qui gronde. Tu sens, je pense qu'il y a quelques marqueurs temporels de type la semaine dernière, ce crime atroce dans le métro, machin, mais très peu.
La grève des éboueurs qui peut pas non plus durer pendant 3 ans, quoi, tu vois.
Bah, apparemment, il y en a une à New York, justement, dans les années 80, 70-80, qui était vénère et qui a duré longtemps.
Okay.
Donc, c'est aussi l'inspiration et c'est un motif récurrent des films de cette période. Et si l'autre moment où j'ai trouvé le film un peu. En fait, j'ai trouvé le film ambigu, mais c'était intéressant. C'est la première fois qu'il regarde donc l'émission de Murray, qui est jouée par Robert De Niro avec sa mère. Il s'imagine.
C'est génial,
moi, je l'ai lu comme il s'imagine y aller et être dans le public, et être repéré par Murray et dire voilà, moi, je suis un bon fils, je m'occupe de ma mère, on vous regarde tous les jours. Et Murray, il le fait descendre, il dit je suis fier de toi.
Bien sûr qu'il s'imagine. Pourquoi tu dis je l'ai lu
comme... Ben, j'en ai parlé hier avec des potes au bar. On était 4 et on était 2 à être là. Bah, c'est une allu, c'est sûr, parce que après, on le revoit dans le lit de sa mère. Enfin, c'est très clairement. Il regarde la télé, il s'imagine ça, il est toujours là. Et il y en avait 2 qui étaient là. Mais non, c'est qu'il y est allé plus jeune, parce qu'en fait, quand il se voit, comme c'est une alu, il se voit plus beau qu'il n'est, il se voit plus en forme. Du coup, il a moins de rides, il est mieux habillé, il est plus propre sur lui et tout. Et du coup, les deux autres l'avaient lu, les deux autres personnes à qui j'étais, avaient vu ça comme « Ah, il y a été quand il était plus jeune, avant d'aller aussi mal. » Et il se souvient de ça, et je suis là.
Non, je pense
moi,
pas.
C'est une alu.
Je pense pas, parce que vraiment,
googlant,
il l'aurait reconnu.
Oui, c'est bien une alu, donc j'avais raison depuis le début. Mais c'est marrant de voir que voilà, on est 4 et en fait, on a deux interprétations différentes d'un moment. Et en fait, au final, les deux marchent à peu près, tu vois, parce qu'il aurait pu effectivement y aller 5 ou 10 ans plus tôt. Murray, il voit défiler 1 milliard de gens dans son public, donc qui se souviennent pas de lui après l'avoir vu faire son stand-up pété, là, c'est pas non plus déconnant. Moi, je trouve que ça marche mieux s'il l'imagine, parce que clairement, il fantasme d'aller dans cette émission. Et du coup, le fait que la première fois où il y passe, ce soit pour se moquer de lui, c'est encore plus horrible. J'étais tellement triste pour lui.
Ouais.
Mais ouais, ça casse pas le film si tu penses qu'il y a vraiment été, quoi.
Ouais, pour moi, ça marche mieux que pour lui, c'est son moment de gloire et qu'il a pas ce vieux souvenir sur lequel se rattacher, quoi.
Oui, et puis il est pas. Enfin, il est pas. On pourrait se dire que peut-être sa maladie s'est aggravée, mais il est pas émotionnellement capable d'aller parler devant son émission préférée. Enfin,
Mais ce que j'ai bien aimé là, c'est qu'il s'en rend compte, en fait. Il dit, mais vous vous moquez de moi, en fait. Et c'est.
Oui.
En fait, ça m'a rendu tellement triste qu'il soit content d'y aller alors qu'ils allaient se moquer de lui et qu'en fait ils s'en rendent compte. J'étais là, yes.
Pour moi, ce moment, ce flashback, en fait, il sert surtout à montrer que c'est un gros narcissique et que en fait il adore être sous la lumière des projecteurs, parce que sinon tu le vois pas au départ. Il est juste dans le seum, il est juste dans
plein
la gueule, etc.
C'est
ce moment pour lui qui est une façon de dire en fait j'aime qu'on me regarde, j'aime être admiré, j'aime qu'on m'adule, qu'on retrouve d'ailleurs à la fin quand il finit complètement explosé la gueule sur le capot et qu'il finit par se relever. Il a son armée autour de lui là et là, ok, en fait je vis, je suis capable.
Puis même, il veut être humoriste, donc en fait il veut être sous les projecteurs alors qu'il est pas drôle. Enfin, c'est ce que lui dit sa mère.
Oui.
Il faut pas être drôle pour être humoriste.
Il est pas drôle et oui, c'est tellement vénère cette phrase. Faut pas être marrant pour faire des blagues. Ok, maman, super. Trop bien. Après, cela dit, est-ce qu'elle devrait l'encourager dans son rêve en sachant qu'il va se cracher? On ne sait pas. Mais c'est vrai que c'est ça qui rend le personnage intéressant, c'est que c'est pas juste un loser qui est perpétuellement rabaissé, c'est qu'il a aussi un rêve qui certes n'a aucun sens, mais si la société avait été un peu plus sympa avec lui, peut-être qu'il aurait pu faire un genre de Blanche Gardin et faire de l'humour très chelou qui fait pas rire tout le monde, mais mettre toutes ses douleurs au service d'une forme de comique. Mais juste, il s'est devenu un mème, en fait, il a fait le buzz et t'as son animateur préféré qui se moque de lui et il est là, ok, je veux jouer à ça.
C'est pas possible de monter sur scène. Enfin, tu vois, la séquence, elle est malaisante au possible. Et tu t'imagines, toi, être dans le public et de voir un mec comme ça en train de rire pendant 4 minutes avant de pouvoir placer une seule phrase. J'aime beaucoup Blanche Gardin, mais en fait, si Blanche Gardin, elle faisait ça, franchement, elle aurait pas schéma à aucun moment.
Il y en a
hein.
un qui fait ça. Qu'il y en a un humoriste qui fait des trucs comme ça.
Alors, il y en a plein qui jouent sur le malaise, en fait. Ouais. Et on était allé en voir un dont j'ai plus le.
Monsieur Fraise, mon truc.
Oui, mais Monsieur Fraise, il est vachement là-dedans. Mais en fait, tu finis par. C'est contrôlé.
Oui, ah bah bien sûr.
Tu
bien
vois,
sûr.
Et oui, ça se voit qu'il contrôle pas.
C'est contrôlé et c'est fait pour. Et
moi, ça me fait beaucoup rire d'ailleurs.
Ouais, alors parfois, Monsieur Fraise, tu vois, je suis là. Pff, ok, la suite, très bien. On a compris la vibe, faut avancer maintenant. Mais donc, je pense pas que ce soit très grand public, mais alors lui, pour le coup, il le contrôle pas, quoi. Tu vois, il est dans ce truc de. C'est encore plus dramatique, quoi.
Oui, c'est ça.
Il se retrouve à, tellement victime de sa propre maladie.
Ouais. Et c'est très, très dur à regarder. Vraiment, c'est. Très dur à regarder.
C'est long comme
quelqu'un
scène.
Qui se prend des vents comme ça, moi, ça me. Ah.
J'étais vraiment. En fait, bah, du coup, on va revenir à ce sujet de cette romance hallucinée, là.
Oui.
Parce que, du coup, quand il va faire son stand-up et qu'il se crache, dans sa tête, il y a. Mais à ce moment-là, tu sais pas que c'est une alu. Il y a sa meuf, donc sa voisine, et elle rigole, et elle est un peu la seule à rigoler, mais tu sens qu'elle est là en mode. Ok, elle le comprend, et elle voit bien qu'il est chelou, mais elle l'aime comme il est, et en fait, ça la fait marrer. Elle se moque pas, c'est très clair qu'elle rigole à ce qu'il fait en disant, bah, c'est quand même bien tes vannes, tu vois, c'est perfectible.
C'est
mais
normal
c'est quand
qu'elle
même
se
bien.
Moque pas, puisqu'elle est dans sa tête.
Oui, on le sait pas encore, mais elle est dans sa tête. Et du coup, moi, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait cette fausse romance. En fait, je trouve que ce personnage est tellement bizarrement. Asexué, asexuel, aromantique.
Oui.
Il a l'air d'avoir aucune forme d'intérêt pour les femmes, et même le fait que ça soit fucked up avec sa mère, il a pas du tout un rapport chelou aux femmes, en fait. Ça a pas l'air de l'intéresser beaucoup les femmes. Mais pas non plus, enfin, c'est juste. Il est neutre, tous les gens qui tuent dans ce film, c'est des mecs, donc il a pas du tout de.
Sa
Alors,
mère.
Sauf s'il tue sa voisine.
Sa mère.
Oui, sa mère, c'est vrai.
En fait, pour moi, je pense que cette romance, elle existe dans sa tête, en tout cas, parce qu'il a besoin de lien. Il cherche du lien. Et on revient toujours à ce truc de j'ai besoin de me raccrocher aux autres. C'est un vrai, vrai truc qui est d'ailleurs compliqué pour les sociopathes, c'est de créer du lien d'une manière générale. Et je pense que tout son truc à lui, surtout qu'il essaie de se soigner, enfin, tu vois, il essaie d'aller mieux, il est beaucoup là-dedans au départ, il est beaucoup dans je veux faire en sorte d'aller mieux et je veux faire en sorte de me soigner. Il essaie d'avoir un lien avec cette meuf. Et en fait, c'est cette fameuse scène de l'ascenseur où elle montre qu'elle est en train de se suicider et lui, il est là, ok, cool, un intérêt commun tous les deux, donc ça veut dire, on a un truc.
Non plus, t'as pas envie de vivre, si on a un truc qu'on peut aller prendre un café pour en parler.
Et je pense que ça vient de là, en fait. Pour moi, c'est. En tout cas, moi, je l'ai expliqué comme ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment ce truc de. Ok, en fait, c'est pas juste une romance amoureuse pour toi. C'est juste quelqu'un avec qui avec qui tu peux passer du temps et parler. Et qui
et
peut
qui
venir
le valide à tous
te
les
voir.
Niveaux,
voilà,
parce
c'est ça.
Parce qu'elle rit à ses blagues. Et quand il parle du mystérieux clown qui a tué les gens,
elle est là, c'est un héros.
Moi, franchement, je trouve que c'est bien ce qu'il a fait. Et
exactement.
Tout, donc. Et c'est juste après qu'il se voit, enfin, qu'il voit le clown en couverture du journal et tout. Donc c'est aussi. Mais en fait, c'est bizarre, je trouve. Je trouve qu'il n'y avait pas besoin de mettre cette fausse romance-là, parce qu'il y a déjà petit à petit toute la ville, sauf les riches, qui prennent sa défense. Mmh. Et on voit déjà des gens dans la rue qui sont là. Franchement, le clown du métro, il est trop
bien.
Mais
il n'a pas un lien à lui, tu vois. C'est pas des gens qui viennent lui dire.
Surtout qu'au début,
bravo.
Il s'en fiche un peu de ce que les autres. Enfin, lui, pour lui, en fait, ça, il n'est pas politique. C'est ce qu'il dit tout le temps, en fait. Il n'est pas politisé.
Oui, jusqu'à la fin.
Pas,
hein.
Jusqu'à la fin, oui. Mais en fait, il n'est pas. Ouais, il est pas dans ce truc. Après, oui, je comprends le truc de lien. Après, ça aurait pu être une amie aussi. Je pense que ça aurait pas eu besoin d'être
faire un truc avec un de ses collègues, puisqu'on a déjà ce setting du boulot où il y a, bah, tu vois que celui qui est de petite taille, il est quand même sympa. Il lui dit, t'es le seul qui a été sympa avec moi, en fait.
Moi, j'ai cru qu'il allait le tuer jusqu'au bout. Hein.
Moi aussi.
J'ai
quand
cru
il
qu'il allait
le
tuer.
Oh, okay.
Et d'ailleurs, c'est très étrange qu'il l'ait pas tué. Enfin, moi, je trouve ça très bizarre qu'il l'ait pas tué, parce que pour moi, il est dans une sorte de. Il a basculé, tu vois. Et il arrive quand même à ce moment-là, alors qu'il est complètement de l'autre côté.
Le nain, tu vois.
Oui, c'est un fric comme lui. Mais cela dit, bon, son collègue aussi, c'est plutôt un marginal. C'est juste que.
Oui.
En fait, dans tout le film, il tue par une forme de vengeance. Donc la première fois, il tue en légitime défense, mais après, par vengeance, ne serait-ce que le mec qui court sur le quai. Il tue sa mère pour se venger. Il tue son collègue pour se venger parce que son collègue, il l'a trahi. Et il tue Murray parce que Murray s'est moqué de lui. Donc en fait, il y a jamais, il y a juste
le
un
nain,
moment.
Le nain lui dit d'ailleurs, t'es le seul à avoir été sympa avec moi.
Oui,
il
c'est
lui fait
ça.
Un bisou sur le
c'est logique qu'il le tue pas parce que. En tout cas, dans cette origin story du Joker, tous ces crimes ont une forme dans sa tête de justification. Et alors, je trouve vraiment pas que le film justifie ce qu'il fait et que t'es censé te dire il a raison. Mais en tout cas, c'est logique dans sa, dans sa tête et dans ce que ces gens lui ont fait que, tu vois, c'est pas gratuit, c'est pas, justement, c'est pas le Joker de Heath Ledger qui fait sauter des bateaux juste pour le plaisir de troller Batman, puisque là, il a pas encore d'antagoniste. Son antagoniste, c'est la vie, c'est les inégalités.
Ah ouais, tu trouves
à
que
Gotham,
c'est juste pour faire chier Batman? Ah, moi, je sais pas, dans Heath Ledger, je lis un truc hyper philosophique, hyper de.
De chaos?
Non, mais de sorte de, bah, tu peux pas sauver tout le monde. Donc il faut que tu choisisses, et tu sais, c'est comme... C'est...
Oui, mais il le troll, parce que du coup,
oui, non, mais il, le troll,
il lui
bien
fait
sûr,
choisir
mais...
des... Il lui... C'est dans Dark Knight, c'est dans The Dark Knight, il lui dit, est-ce que tu veux sauver ta meuf ou Harvey Dent?
Oui.
Et si ta fait, meuf, elle a telle adresse, et Harvey Dent, il a telle adresse, et il va sauver sa meuf, et en fait, il avait inversé les adresses,
ouais,
et
mais
coup,
ça,
il va
ça
sauver Harvey
dire,
Dent.
Ça veut aussi dire, mais pourquoi tu choisis quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre, tu vois? Genre, ça te ramène
oui,
à ça aussi, tu vois.
Mais
genre,
ça rentre dans... En fait, il fait tout ça pour Batman, tu vois, pour rentrer dans la tête de Batman. Et comme ce Joker-là, il a pas encore... de Batman, il a Bruce Wayne, mais qui est juste un enfant qui aurait pu être lui si on garde la storyline de, en fait, Thomas Wayne, c'est son père. Et je pense que ça joue aussi dans sa, dans le fait que ça le casse d'aller au manoir Wayne, parce qu'il voit ce gamin qui a une vie incroyable, qui est protégé par Alfred, du coup, et qui se dit, bah, ok, vraiment, ça se joue à pas grand chose.
C'est clair. Et sinon, je voulais vous demander, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des trucs que j'attendais et que j'ai pas eu. Est-ce que vous avez des trucs que vous attendiez et que vous avez pas eu?
J'espérais... Il y a un truc que j'espérais ne pas avoir et qu'on a eu, c'est la mort des parents Wayne. Parce que ça commence à faire énormément de temps dans ma vie passée à regarder Bruce et Martha Wayne, non, Thomas et Martha Wayne se faire tuer dans une allée. Il a même remis le collier de perles qui saute et tout.
Ouais.
Et en fait, j'espérais, je savais bien que, alors le film s'appelle Joker, c'est très clair, j'espérais limite qu'il n'y ait pas du tout Bruce Wayne, qu'il n'y ait pas du tout que soit
et
juste
moi,
en fait
étonnée,
y a Thomas Wayne
aussi.
À la télé. Mmh. À la limite qu'il ait cette interaction avec Thomas Wayne, c'est intéressant, mais qu'on voit Alfred et tout. Enfin, en fait, ça me sort un peu du film parce que je me dis, ah, ils ont pris machin pour faire Alfred, c'est intéressant comme vision du personnage. Parce qu'on sort de Michael Caine, le Alfred de Dark Knight qui est très vieux.
Et
très
vous avez trop des rêves déjà de vieille, d'accord? Parce que, en fait, pour moi, le truc, il est fait aussi pour les mômes qui n'ont pas encore vu tous ces films.
Je pense pas que Joker, il est fait pour les ados. Ah,
bah, franchement.
C'est un film qui est. Pour moi, c'est vraiment Taxi Driver dans
donc,
DC Comics. Taxi Driver, c'est pas pour les ados. Quoi.
Si t'as 20 ans. D'accord, t'as pas forcément vu The Dark Knight, t'as pas forcément vu tous ces films-là.
Si t'aimes les super-héros, en général, t'as vu Dark Knight. Enfin, Dark Knight, c'est pas si vieux que ça, tu vois, c'est 2008.
En fait, je dis juste que pour moi, l'objectif là, c'est de venir remettre tout ça dans un package de... En fait, on vient remettre le Joker dans l'histoire globale. Et moi, j'ai trouvé que c'était plutôt
justement,
cool.
Justement, pour moi, c'est sortir le Joker de l'histoire, puisque dans l'histoire, il n'a pas d'origine, et ça fait partie de lui qu'on n'ait pas son origin story.
Oui.
Et même dans une des rares origin stories qui existe, qui est The Killing Joke, un one-shot comics...
J'ai rien de tout ce que tu vas me raconter, d'accord? C'est juste pour te dire, et je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont pas.
Oui, mais justement, d'accord. En fait, c'est pour moi ce film, l'intérêt limite de ce film, c'est justement de pas être ancré dans l'univers DC Comics en général, de pas avoir de Batman, de pas avoir de Alfred, de super grappin, de machin, de chauve-souris, c'est juste l'histoire de comment le Joker est devenu Joker, bah c'est juste un mec qui devient fou dans une ville qui l'encourage à devenir fou et qui lui offre pas d'aide et du coup tout le monde a quand même les codes culturels de Batman, tu vois. Alors peut-être pas ta fille qui a vraiment 13 piges, mais t'as 20 ans, tu sais c'est qui les Wayne, tu sais que Batman, ses parents, ils sont morts, tu sais c'est qui Bruce Wayne. Enfin, t'as tout un moment où il est là, comment tu t'appelles? Et le gamin, il fait Bruce, et je suis là, évidemment,
ouais,
qui s'appelle
mais,
Bruce Force. Hyper obvious, tu vois. Alors peut-être pas.
Mais
voilà,
il le sait pas, lui.
Non, mais le film, en fait, à quoi ça sert d'avoir Bruce Wayne dans ce film?
Ok.
Parce que pour moi, pareil en fait, ouais, c'est
mais
ça.
Mais ça a pas l'air d'être
en
le
fait,
projet.
En fait, si, bah, moi, je trouve que justement, je trouve qu'ils ont trop suggéré. Je pense qu'ils se sont dit, on va pas faire de suite parce que c'est un one shot. À la fin, ils mettent The End et tout. Je suis persuadée à genre 300%, moins 100% pour Joaquin Phoenix, donc 200%, que en fait ils veulent faire une suite, parce que en fait s'ils voulaient pas faire de suite, déjà ils auraient pas contextualisé Batman, parce que effectivement ça sort du film, tu te dis alors attends, il a 30 ans donc Batman il a cet âge là donc attends ils ont quel âge, enfin moi vraiment c'est ce qui m'a fait sortir du film, j'étais là
après quand Batman c'est Batman, le Joker il a 60 piges,
ouais, genre je suis là qu'est-ce qui se passe, et donc non,
parce
voilà
que, quel âge là, il a 10 ans Bruce,
ouais mais du coup disons il devient Batman à 20 ans. Ça veut dire que son ennemi juré, il a 30 piges de plus que lui, quoi.
Il a 45 ans. Pour moi, ils ont 20 ans d'écart. S'il a 30-35, pour moi, ça marche bien. C'est-à-dire que juste, son ennemi juré, il a 20 ans de plus que lui. Et ça marche bien. C'est pas complètement déconnant.
Ouais, mais je sais pas. Mais du coup, tu veux, ça m'est rentré dans un calcul comme ça. Et il y a aussi la scène...
Attends, j'ai une théorie.
Vas-y.
Ok, j'ai une théorie de ouf, les gars. Accrochez-vous. Okay. Dans un des podcasts ciné que j'aime bien écouter, qui a inspiré très largement Sort le Popcorn, c'est un podcast d'un site américain de cinéma qui s'appelle Slash Film. Du coup, le podcast s'appelle le Slash Film Cast et ils ont fait un épisode sur Joker, évidemment, parce que c'est très attendu. Et il y en a un qui dit, donc il parle de est-ce qu'il va y avoir une suite, alors eux, ils sont très versés en plus dans tous les bails de prod, de magouilles, de contrats et tout. Et il y en a un qui dit, à mon avis, il y a Bruce Wayne et c'est une fausse piste. Dans Joker, Arthur Fleck tue sa voisine, on le sait pas, elle le voit chez lui et on se rend compte que c'était dans sa tête, on ne sait pas ce qui arrive à sa voisine. Il la tue, mais il tue pas sa fille.
Oh
et sa
my
fille
God.
Grandit pour devenir un genre de super-héroïne, peut-être Catwoman, qui se venge de l'homme qui a tué sa mère.
Oh.
Et du coup, Bruce Wayne, c'est juste une fausse piste pour que tu dises, ok, si on fait une suite 20 ans après, bah, ça va être Batman contre Joker. Et en fait, non, c'est Catwoman contre Joker.
Oh
et là,
God.
Je me dis, mon gars, dans Joker, ok. La voisine et donc sa fille sont afro-américaines. Ils viennent de caster dans le Batman avec Robert Pattinson. Ils viennent de caster Zoe Kravitz, qui est afro-américaine, pour jouer Catwoman.
Non.
Imagine le Batman avec Robert Pattinson et Zoe Kravitz. C'est la suite de Joker. Et ils font genre une split et ils le disent pas. Et juste tu vas voir le film parce que tout le monde doit aller voir Batman avec Robert Pattinson, sauf les haters qui se sont arrêtés à Twilight, tu vois.
Et il y a Joker dedans.
Et là, il y a Joaquin Phoenix.
Il y a Joker, Joaquin Phoenix.
Vous l'avez
peut-être que
peut-être
je viens de vous niquer, surprise de ouf. Je vous ai gâché le film. Vous allez passer tout le film à faire. Imagine Mimi, elle avait raison. Et si j'ai raison, ce sera dommage. Et si j'ai pas raison, ce sera dommage aussi.
Ou alors, t'es vraiment une visionnaire.
Écoute, peut-être que je vais avoir des problèmes. Il y a des avocats et des huissiers qui vont venir me dire. Comment tu
c'était
sais
ce
que je t'ai dit.
Pour qui travaillez-vous, Mademoiselle
Mimi? Par les gens de Warner, putain. Qu'on embrasse, merci beaucoup. Du coup, ok, donc.
Mais ouais, du coup, moi, dans cette histoire de suite, en fait, c'était vraiment la dernière scène pour moi. Le film aurait dû s'arrêter à la scène sur la voiture et n'aurait pas dû avoir lieu dans le putain d'hôpital psychiatrique.
Très bizarre cette
mais
conclusion.
Parce que ça veut dire que genre c'est là qu'il va rencontrer Harley Quinn, c'est là qu'il va y avoir une suite en fait, c'est là que ça commence la suite. Et pour moi c'était ça et j'étais là c'est trop gros. Et ma
c'est
pote
trop une
c'est...
ouverture
ouais,
en
c'est
conclusion
ça.
Où t'es là bon bah on... t'as l'impression
mettre...
de savoir
ouais.
sur quoi ça ouvre quoi.
C'est ça et après ils mettent The End et j'étais là arrêtez deux secondes de faire semblant de faire ça.
The End.
Non,
le même
genre...
avec Bob l'éponge tu sais. Pas très radiophonique, mais vous l'avez, c'est Bob l'éponge qui se moque des gens, vous voyez bien à quoi il ressemble.
Non mais ouais, et du coup, c'est ça, vraiment, avec ma pote, on s'est regardé, et c'est la première chose qu'elle m'a dit, elle me fait, cette scène n'était pas, enfin franchement, elle n'était pas...
En même
pas
au-delà, alors moi je ne l'ai pas lu comme forcément annonciatrice d'une suite, tu vois,
ouais.
Parce que j'avais plus en tête tout le bail Harley Quinn et tout, et là on revient un peu à ce que tu disais, de, en fait il y a plein de lectures du film selon...
Oui,
à quel point t'as l'univers Batman au ciné dans les comics en tête. Donc là, bah, moi, j'ai pas du tout pensé à Harley Quinn. Je sais que c'est Arkham parce qu'il le dit à un moment. Il dit, ah, ma mère, elle est à l'hôpital d'Arkham.
Oui.
Non, elle était à l'asile d'Arkham quand elle était internée. Et il y va et tout. Mais je n'ai pas connecté les points, mais j'étais juste en mode, à quoi sert cette scène? En fait, je ne comprends pas. Est-ce qu'on est censé... J'ai eu un petit moment de, est-ce qu'ils nous font, hein, c'était dans sa tête? Et après, j'ai fait, non, ça va, c'est bon. Parce que vraiment, ça se fait hop, mais j'étais là, ok, donc il a plus les cheveux verts, il est plus maquillé, il est très clairement interné, mais il tue la meuf, alors on sait pas comment, parce qu'en soi, il a pas non plus une force physique,
mais
enfin, on l'a vu tuer des gens avec des objets, là où on ne sait pas trop, et après il s'enfuit en courant, et en mettant du sang partout, et il danse un peu, et j'étais là, what the fuck, à quoi est-ce que c'est censé nous dire, on l'a attrapé, enfin... Les gens de Gotham l'ont attrapé et interné, mais il va quand même s'échapper. Je suis là, oui, ok, c'est le Joker, c'est ce qu'il fait, mais je n'ai pas pigé cette scène. T'en as pensé quoi, toi, Fab?
Moi, je m'en battais les couilles. Vraiment.
Bah, merci d'être venu dans Sors le Popcorn, le
podcast
d'analyse cinéma.
Non, mais c'est pas ça, c'est que... pour moi, effectivement, c'est plutôt pour dire, en fait, il est pas en roue libre. Dehors, il finit par être attrapé et par être incarcéré et puis par effectivement sortir du truc. Donc c'est plutôt pour boucler le film, je pense. En tout cas, pas forcément boucler des éventuelles suites, parce que pour moi, The End, ça veut juste dire que c'est la fin de ce film-là. Tu vois, c'est pas forcément la fin de tout Joker du monde entier, mais juste, je pense que c'est une façon comme une autre de venir boucler le film et de le rendre. De venir le terminer, quoi, tu vois. Alors après, on aime pas. Enfin, et puis ça permet de faire parler les gens dans les podcasts. Et comme ça, après, ils disent, OK, ça fait du buzz. Voilà, hop, ils sont contents. Ouais, moi, j'ai plutôt perçu comme ça, quoi.
T'es cynique, tout non, ça pour le buzz, c'est ça que tu dis, Fabrice.
Mais bien sûr, je pense que faut pas oublier que pour moi, quand ils font du cinéma à Hollywood, même si c'est des films comme ça qui ont l'air indie, parce qu'il y a Joaquin Phoenix qui joue un Joker qu'on n'a jamais vu au cinéma, etc., etc., à la fin, il faut quand même des films pour gagner beaucoup d'argent et pour s'adresser au plus grand public possible, quoi. Donc effectivement, quand tu dis en fait Joker, c'est pas pour ta fille, bah en attendant, moi je suis quand même payé une place pour amener ma fille dans ce cinéma.
Oui,
et,
bien sûr.
Et en fait, le film, il est pas interdit au moins de 16, il est interdit au moins de 12, tu vois. Donc t'as un vrai truc aussi de.
Après, je sais pas combien il est interdit aux États-Unis, ça je sais pas.
Je pense qu'il est PG-13, donc interdit au moins de 13 ans. Je crois que c'est non accompagné, Parental Guidance 13. Ouais. Parce qu'il est, mais ça, c'est parce qu'il est pas si violent. Il y a aucune scène de sexe. Non, c'est souvent les scènes de sexe qui flinguent les films. Là, il y en a pas. Il y a un peu de violence, mais pas de ouf. Il y a pas de nudité. Enfin, c'est pas si dérangeant. C'est juste triste, mais c'est pas pire que ce qu'un gamin peut voir à la télé, clairement.
Et pour moi, c'était cool aussi cette histoire de Bruce Wayne. C'est que, tu vois, Lina, elle m'a dit à un moment donné, donc ça veut dire qu'en fait, c'est le frère de Bruce Wayne, c'est ça? Enfin, c'est le frère de Batman. J'ai fait, ouais, en fait, c'est ça, t'as capté. C'est que elle avait.
Eh ben, moi, j'ai trouvé ça beaucoup trop gros.
Mais bien sûr, parce qu'en fait, toi, tu connais tous les bails.
Non,
mais
en plus, je regarde zéro. Enfin, moi, je suis vraiment pas une fan de tous les films de super-héros.
Mais tu connais quand même l'univers.
Bah, j'ai vu les trois films de Nolan.
Ah voilà.
Voilà.
Ce qui est déjà beaucoup.
Et j'ai vu Suicide Squad.
Lina, elle l'a jamais vu, par exemple. Elle a jamais rien vu. Et en fait, je pense que elle, ça lui permettait de pouvoir remettre du contexte et de pas être complètement perdu. C'est comme ce jour où on allait voir Pacific Rim 2 ensemble, alors qu'on voulait aller voir, je sais plus quoi, genre Tomb Raider ensemble, tu vois. Et il y avait plus de place pour Tomb Raider. Et donc, j'ai fait, ah bah viens, on va voir Pacific Rim 2. On n'avait pas vu le 1. Donc en fait, c'était compliqué.
Après, ça reste des gros robots qui se battent contre des gros lézards.
Ouais, mais donc par exemple, dans le 1, t'as toute cette intro où ils viennent t'expliquer comment ça marche avec le cerveau, pourquoi ils sont deux dans les trucs et tout. Elle était là, pourquoi ils sont deux? Je dis, ah oui, bah, pff, t'as pas les bails, bah, regarde, tu vas voir, c'est marrant. Après, on est rentré, on a regardé le 1 et j'ai fait, tu comprends mieux maintenant? Je comprends beaucoup mieux le 1.
Ok, un conseil de ce podcast d'experts en cinéma, voyez les films avant de voir leur suite. C'est souvent une bonne idée pour piger ce qui se passe.
Très clairement. Ceci dit, j'avais envie de me faire un kiff à moi. Je lui ai fait, tiens, viens avec moi, tu vas voir, tu vas kiffer quand
même. Faites des enfants pour les emmener voir les films que vous voulez
voir. En même temps, c'est, là, du coup, pour le coup, bah, comme tu disais, c'est inclus dans l'univers Batman, mais ça reste quand même un film à part entière. Et moi, j'ai fait des liens dans ma tête et tu vois, genre, j'étais là, est-ce qu'on va avoir la raison pour laquelle il a le sourire? C'est pas dans le film, j'étais là, je suis contente.
Non, il a pas l'aspect cicatrice du coup.
Oui,
dans le,
mais
dans
pour
le
moi,
film.
Pour moi, on allait découvrir comment il allait les avoir parce que tout
genre
le truc,
dans le crash de voiture ou un truc comme
ça. Ou sa mère, ou je sais pas, ou enfin, tu sais, parce que dans Heath Ledger, à chaque fois qu'on lui demande comment il a ses cicatrices, il raconte, enfin, qu'on lui demande, il se demande de lui-même.
il aime beaucoup se poser la question.
Mais en fait, il dit une histoire différente à chaque fois et je trouvais vraiment que pour le coup, les deux Jokers se ressemble beaucoup plus que tous les autres Jokers qui existent en fait et du coup je l'ai vachement
Tu l'as projeté toi?
Moi j'ai un peu projeté, j'avoue.
Ah oui.
Mais parce que aussi Heath Ledger c'est ma passion. Enfin vraiment c'est ce film là m'a choqué quand j'étais petite quand je l'ai vu, mais j'ai choqué fort et c'était la première fois que je kiffais un truc de super-héros et The Joker c'était mon personnage préféré pendant super longtemps et vraiment je le trouve déglingot et en même temps, je sais pas.
On n'a pas parlé du corps de Joaquin Phoenix qui est fou, vraiment.
Incroyable.
Cette séquence.
Et du rire.
Alors oui, on va parler
qui
du
va
rire.
Ensemble, je trouve.
Cette séquence où il est en train d'essayer de craquer
sa chaussure
de dos, là, où en fait, t'as un peu l'impression de voir le pingouin aussi. C'est marrant de dos avec son dos tout courbé, là, où t'as l'impression qu'en fait, c'est pas un corps d'être humain. Enfin, c'est pas du tout un dos d'être humain, en fait.
Clairement, il y a des os, j'étais là. J'aurais eu envie de mettre pause pour être là, mais d'où ses épaules, on dirait des ailes qui vont.
C'est ça, il a un os qui sort de sa clavicule.
Il s'est démis l'épaule et tout. Ouais. Alors, c'est après qu'il se soit fait tabasser, mais donc parce qu'on voit qu'il a des hématomes et tout, mais ça n'explique pas le placement extrêmement chelou de tout ce qui est squelette dans cette personne. Moi, j'ai pas pensé au pingouin, mais j'ai plus pensé à des performances. En fait, c'est assez classique, entre guillemets, les acteurs qui font des pertes de poids et des prises de poids drastiques pour des rôles.
Ça va partir sur un Oscar, ça, sans aucun doute. Hein.
Écoute, ça, c'est... Mais en fait, moi,
il serait
vraiment
pas démérité en plus. Hein.
Mais bien sûr que non. Mais c'est sûr que c'est un film fait pour les Oscars.
Bah, ça force un peu, tu vois. Mais...
Ça force un peu l'Oscar du meilleur acteur. Ce sera pas l'Oscar du meilleur film ou quoi que ce soit, je pense pas. Mais ce sera meilleur acteur. C'est... Enfin, je vois pas qui d'autre.
Alors, on va voir. C'est pas, c'est pas, c'est
la
pas,
saison
c'est,
n'est pas finie.
Ma foi. Ma foi.
Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu un blocage entre les Oscars qui se veut une cérémonie un peu prestige et les films de super-héros qui sont un peu vus comme des blockbusters pas très malins, où ils ont tout le temps des prix genre effets spéciaux et tout, mais ils ont rarement eu des prix classiques de films, quoi, qui récompensent l'objet filmique. Du coup, ce serait un bon gateway de dire, OK, on file un Oscar à film de super-héros, mais c'est un truc noir, hommage à Taxi Driver avec Joaquin Phoenix, donc ça rentre dans la mythologie des Oscars, c'est pas genre Chris Evans, t'as bien fait, Captain America, très beau bouclier, très beau petit moule beat, let's go, un Oscar, tu vois.
Et puis, objectivement, Chris Evans, enfin, y a aucun des mecs qui joue dans Avengers qui est
qui
dans les films
Avengers.
Qui a fait
la moitié du boulot.
Voilà, qui mérite ça, quoi, faut le dire, alors que là, on est dans une performance hors norme pour les films de super-héros habituels, quoi, je pense.
J'ai vu des... Du coup, je pense que c'était dans Slash Filmcast où il disait que ce qui est intéressant, alors ils savent pas qu'est-ce qui vient de Joaquin Phoenix, qu'est-ce qui est ses idées, qu'est-ce qui est les idées du réal ou du directeur chorégraphe, etc. En fait, au début, du coup, on le voit courir avec ses chaussures de clown parce qu'il course les gens qui lui ont volé sa pancarte et qui finissent par le tabasser. Et en fait, il court pareil tout le film, même quand il a plus de chaussures de clown.
Oui,
et
oui,
il a
vrai.
Développé une course chelou qui te met tout de suite dans une forme de malaise de « Ok, c'est pas une course normale, on dirait tout le temps qu'il va tomber, en fait, on dirait tout le temps qu'il va se péter la gueule et qu'il est en équilibre précaire et ça rentre aussi dans son rire dont tu parlais.
Speaking of malaise.
Ultra douloureux, oh là là.
C'est la première séquence.
Ouais,
je trouve que c'est fabuleux de commencer par là et d'avoir ce portrait, enfin ce close-up là, ce zoom sur lui
qui est
en train de rire longtemps en plus.
Ouais.
C'est tellement long.
Mais c'est ouf parce que du coup j'ai vu une interview de Joaquin Phoenix qui disait que la chose qui lui faisait le plus peur dans ce film, c'était le rire.
Bah oui.
Et donc il a énormément travaillé
tu
dessus
sens qu'il l'a taffé,
et que en fait il était jamais satisfait de lui, tu vois. Et en fait, il a dit, même quand je vois le film aujourd'hui, je vois des scènes qui ont été tournées le deuxième jour où je l'avais pas encore trouvé. Je peux pas les regarder. Genre, c'est pas.
Mais
pas
sur une forme d'exigence personnelle.
Il est fou.
En vrai, le rire, il marche tout le long du film. Il n'y a pas un moment où tu dis, ah, il marche mieux qu'un autre. Enfin,
non.
Même truc ultra douloureux. Alors, j'ai peut-être pas l'oreille assez fine pour voir les différences, mais.
Bah, peut-être que si on retourne le voir, peut-être, tu peux voir les différences. Mais c'est vrai qu'il a un truc entre rire et pleurs. Et en même temps, il souffre parce que ça lui fait mal à la gorge.
Et quand il le fait sur scène, je trouve que c'est le pire. Enfin, il est tellement vulnérable devant tout le monde. Il reste sous le spot, il reste devant son micro, donc il rit dans son micro. Et je suis là, attends, descends de la scène, s'il te plaît, ne reste pas là.
Les frissons que j'ai rien que d'y repenser, vraiment, ça me.
Et puis ce moment où il est en danger avec les mecs aussi qui viennent vouloir lui péter la gueule dans le métro et qui sait pas comment faire. Il sait pas s'expliquer. La meuf, elle lui prend sa carte, non? Mais non, c'est bizarre, il y a une histoire avec cette
carte. En fait, il y a une première scène dans le bus où il fait rire un petit enfant et la mère de l'enfant l'engueule, du coup il rigole, elle commence à l'embrouiller en mode tu trouves c'est marrant, et là il lui donne sa carte où t'as un gros plan pour qu'on la lise. Voilà, j'ai une maladie qui fait que je rigole quand je suis stressée. Et en fait, dans le métro, les mecs ils sont en train de harceler de transport une petite go, qu'ils regardent et lui il peut rien faire.
Il sort pas sa carte, tu vois, à ce moment-là. Juste
il essaye de leur donner un moment, il lui jette à la gueule. En fait, ils la prennent et ils la jettent.
Ah, ok, j'ai pas vu.
Alors que moi j'ai bien aimé le détail où en bas de la carte il y a marqué merci de la rendre. Soyez gentil, rendez-moi ma carte. Et les deux fois où il la sort, je pense que la dame du bus lui rend, mais on ne la voit pas le faire. Et genre elle la lit, elle le regarde méchamment et elle se retourne. Et en fait elle garde la carte. Et je suis là.
Rends-lui la carte,
il en a besoin, tu vois, parce qu'il y a des gens comme toi qui sont pas polis, et les mecs ils la jettent dans le métro et ils se mettent enfin ils la lisent même pas, tu vois, ils essayent de leur donner, ils s'en pas les couilles de ton truc et du coup ils essayent même pas de comprendre ce qui lui arrive, quoi.
C'est la seule fois où il est vraiment en danger, tu vois, pour lui.
Ouais.
Et en fait il arrive pas à s'en dépêtrer, donc t'as cette vulnérabilité folle effectivement il est vulnérable sur la scène, mais en fait il est pas en danger pour lui-même, quoi. Il est vraiment en danger pour lui-même, il n'arrive pas à arrêter, quoi. C'est ouf.
Quid de cette fantastique scène où il se prend la porte? Est-ce que c'est pas, franchement,
il se prend la porte,
la porte en verre de l'hôpital?
Ah oui,
il lâche sa punchline au flic, il est là, si vous m'excusez, je vais revoir ma mère malade à cause de vous. Il jette sa clope et là il se prend la porte. J'étais en mode putain, t'as vu,
c'est ça.
Mais en fait c'est ça, c'est tout le côté comédie tragédie quoi, super
exploité. Il essaye, oui, il fait des signes de main à la porte et tout, le mec fait c'est juste, c'est qu'une exit only et c'est long, c'est genre ça doit durer 15 secondes mais vraiment c'est long. J'étais là,
mais en fait c'est intéressant parce que je trouve que du coup bah le Joker il est toujours entre ce l'humour et enfin l'humour noir qui est drôle ou pas du tout quoi, enfin vraiment, mais il y avait pas cet aspect clownesque qu'il y a dans les autres Jokers, donc de les tours de magie, enfin les tricks, en fait lui il est clown, c'est juste son métier, et en fait ce qui est clown je trouve c'est vraiment ce truc où tout ce qui lui arrive, si ça avait été écrit autrement, ça pourrait être très drôle comme film. Et c'est juste une façon de voir les choses qui est différente. Et donc, voilà, il se prend des vitres et tout. Et donc, mais c'est pas un clown. C'est pas un clown à la façon de Jack Nicholson.
Il est pas exubérant, ouais. Il est juste.
Il a pas de tricks, en fait. Il a pas de trucs de clown. L'eau qui sort de la fleur. Ou même, c'était Romero qui avait des. Qui électrocutait les.
Oui, avec
les autres
avec
dans sa main.
Des gamins.
Des gadgets, tu vois. Et il a pas du tout ça, lui. Enfin, pas encore, en tout cas.
Est-ce que vous. En fait, moi, j'ai hésité un moment quand il est donc sur le plateau chez Murray. Je me suis demandé s'il allait le tuer ou pas.
J'étais pas sûre. Voilà. Moi, j'étais à peu près sûre qu'il allait pas se tuer.
Parce qu'il lui fait la blague.
La blague de c'est votre fils, il a été renversé. Alors oui, il y a le knock-knock.
Voilà. Et en fait, ça tombe à l'eau. Donc il le fait pas. Je pensais qu'il allait buter à ce moment-là.
Oui, pareil. Je pensais que la blague c'est ça qu'il répétait en plus. Ouais. C'est knock-knock qui est là. Je sais plus ce qu'il dit. Et il le tue. Non, il se tue. C'est ça qu'il répétait chez lui. Et au final, il fait une blague genre c'est votre fils, il est mort ou un truc comme ça qui est un humour assez unique finalement. Je n'ai pas compris le ressort comique. Et du coup, tout le monde est un peu genre t'as la vieille dame à côté de lui qui est là oh, et Murray qui lui fait un peu la leçon, oui, qui est là en mode non, c'est on fait pas ce genre d'humour ici, c'est une émission
familiale. Toujours en plein show, tu sais. Et moi j'étais là, c'est surréaliste quand même.
Personne ne s'inquiète vraiment de la présence de ce gars.
Et en fait, c'est marrant parce que le gars, enfin Jean là, lui dit coupe, en fait coupe, et Murray, il peut, c'est limite lui, je pense qu'il le pousse aussi à bout dans ce truc de le daron de ouf qui finit par juste lui faire déclencher. Je suis pas, en fait, en vrai, je me demande vraiment s'il était sur le point vraiment de venir pour le buter quoi.
Mais c'est ça. Je pense que, enfin, déjà son plan, on le voit, c'était de se buter lui-même. De se suicider. Et je pense que effectivement, si Murray il coupe à ce moment-là et qu'il dit bon, on va couper l'émission et vous sortez d'ici, peut-être qu'il le tue pas en fait parce que il le pousse à bout, enfin il le respecte pas. C'est tout le film, c'est le monde ne le respecte pas et au bout d'un moment, il en a marre et il dit bah fuck it.
Puis c'est vrai qu'il respecter. Voit sa blague sur le cahier là, tu sais. Genre ma mort.
Would be worth
more cent.
Oui, more sense. Oui.
Ouais, je sais plus comment c'est formulé, mais oui. En plus, je l'ai pas capté dès le début et tout, et j'ai vu les sous-titres et j'étais là, pourquoi ils ont pas traduit sense, tu vois.
Encore une fois, grande expertise ciné-série, mais aussi linguistique.
Voilà, j'ai failli faire de la traduction anglaise, donc ça vous sentit beaucoup.
Oui.
Non, mais ouais, c'était.
Mais je pense que c'est tout à l'honneur du réal qui vraiment est pas connu pour son humour subtil. Et je veux dire, les blagues de Very Bad Trip, le timing est très obvious. C'est un humour qui n'est pas fait pour être fin. Et c'est pas grave, ça marche bien dans le Very Bad Trip. Le premier était très cool, le 2 et le 3 étaient un peu redondants tout simplement, mais les blagues, si elles marchent dans le premier, elles marchent dans le deuxième et dans le troisième, et j'aurais jamais cru que le mec qui fait Very Bad Trip est capable de faire un humour aussi malaisant et décalé, parce qu'en fait il faut maîtriser le timing comique pour réussir à le décaler suffisamment pour que ça soit angoissant et malaisant, et en fait il a quand même fait un super taf. Alors bien, il y a probablement des très bons directeurs photos et tout, parce que le film est très très beau et l'acteur est ouf. Mais le réal, en vrai, il a aussi fait un super taf et je sais pas d'où il sort ça. Il a été un peu moqué pendant toute la polémique autour du film parce que il a eu un discours qui a été un peu résumé à on peut plus rien dire, on peut plus rire de rien. Parce qu'il avait un discours un peu vénère de non, mais dans notre époque ultra polarisée, on peut plus faire d'humour et tout. Donc plein de gens qui font de l'humour lui ont répondu, notamment Taika Waititi, le réalisateur de Thor Ragnarok.
Ouais.
Là, il fait un nouveau film qui est une comédie dans laquelle il joue Hitler. Alors que c'est genre un néo-zélandais de 30 ans qui porte des chemisettes à fleurs, donc on est hyper provoque.
C'est lui qui avait fait Vampire en toute intimité.
Oui, What We Do in the Shadows, qui est un truc débile, un faux documentaire avec des vampires. Et donc c'est un mec qui est la preuve vivante qu'on peut faire de l'humour sur des sujets sensibles en étant assez intelligent. Et il avait juste répondu à Todd Phillips en disant « Lol, il est marrant ». Quand Todd Phillips avait dit « On peut plus être marrant de nos jours », il a juste répondu « Lol, il est funny ». J'étais là « Ah !» Putain. Mais en fait, j'ai lu l'interview de Todd Phillips où il parle de tout ça, et c'est pas complètement con ce qu'il dit. C'est qu'il dit, en fait, si vous pensez que mon film glorifie des trucs et que mon film veut vous faire rire des mauvaises choses, mon film, c'est un miroir qui est tendu à la société. Ouais. Et en fait, vous y voyez du mal, c'est peut-être qu'il faut regarder autour de vous et regarder ce qui se passe dans le monde, et notamment aux États-Unis où peut-être le sujet des maladies mentales et des tueries... C'est un petit peu d'actualité toutes les deux semaines.
Oui. J'allais dire autour de vous et peut-être en vous aussi.
Et oui. Auriez-vous aidé Arthur Fleck à récupérer sa pancarte de clown, minute 4 du film? Peut-être.
Auriez-vous arrêté les petits cons qui sont en train de se barrer parce qu'en fait il appelle à l'aide plein de gens.
Oui, il dit arrêtez ma pancarte.
Et les gens laissent passer les petits connards, quoi, tu vois. Il n'y en a pas un pour les tacler, quoi, tu vois.
Soyez gentils avec les gens autour de vous, s'il vous plaît.
Oui. Soyez gentils, comme ça on aura moins de problèmes. Et financer de façon publique et abordable pour tout le monde des soins, voilà, à tous les niveaux, y compris pour la santé mentale. Et très important, voilà. Est-ce qu'on a fait le tour?
Ah bah oui, hein, dis donc, on a bien causé.
Oui. Hein ouais. On n'est pas sur un podcast tight, ok? Moi, j'aime pas écouter des podcasts courts, je vais pas faire un podcast court. Tu viens, tu t'installes, on a 1h15, 1h30, peut-être 2h, ça dépendra des épisodes, on s'en fiche. Ça va être un long format, voilà. Vous le savez maintenant. Alors, on va finir ce podcast avec une pastille qui vous dit qu'est-ce que vous pouvez aller voir d'autre au cinéma, à part Joker, qui était le focus de cet épisode. Et donc, je vais commencer avec un film dont je suis très fière parce que Mademoiselle est partenaire et c'est un film qui me hype environ depuis que je sais qu'il existe. Ça s'appelle Queens et c'est avec Jennifer Lopez, que j'aime trop. Et toute une brochette de meufs et de guest stars incroyables. Il y a Lizzo, il y a Cardi B, il y a plein de meufs du monde de la musique et du cinéma qui ont toute une énergie folle. Et du coup, Queens, c'est l'histoire de stripteaseuses qui essayent de s'en sortir. C'est un peu une histoire aussi de lutte des classes, finalement, même si c'est beaucoup plus fun que Joker et beaucoup plus féminin aussi, dans le bon sens. Et du coup, c'est des stripteaseuses qui vont se lancer dans un genre d'arnaque à grande échelle où elles vont arnaquer leurs clients. C'est inspiré d'une histoire vraie et la présence de Cardi B dedans n'est pas anodine puisque elle-même avant était stripper avant d'être une star du hip-hop. Et elle avait raconté qu'elle avait arnaqué des clients et ça avait fait un peu buzz, bad buzz. Est-ce que c'est genre ultra BG ou pas de raconter ça, on ne sait pas trop, mais le film en tout cas est trop trop bien. J-Lo est incroyable, ça fait longtemps que j'avais pas vu Jennifer Lopez dans des trucs. Ok, d'accord, on est sur une personne extrêmement énergique. C'est fun, c'est très sexy, c'est féministe, c'est vraiment cool. Mademoiselle accompagne la sortie de Queens au cinéma ce 16 octobre. Voilà, c'était mon coup de cœur de la semaine. Est-ce que tu as un coup de cœur de la semaine, Alix?
Alors oui, moi aussi, j'ai un coup de cœur de la semaine. Ça s'appelle Mathias et Maxime. C'est le nouveau film de Xavier Dolan qui sort
très confondable avec Queens aussi. C'est comme
très confondable.
Planqueur et
voilà, c'est comme Planqueur. Comme Planqueur et Peaky Blinders, donc il y en a un qui se passe au Québec, l'autre aux États-Unis. Voilà, si vous êtes au Québec, c'est que vous êtes bien dans la bonne salle.
S'il y a
pour
de
Dolan.
La poutine, c'est Dolan. S'il y a des fesses, c'est Queens. Facile.
Donc voilà, j'ai déjà parlé dans Laisse-moi kiffer, dans des articles sur Mademoiselle, de ma passion pour Xavier Dolan, qui est un réalisateur que j'admire énormément et que je trouve génial dans tous les sens du terme. Et du coup, je suis très contente parce que c'est son deuxième film sorti cette année, alors qu'il n'y en avait pas eu l'année dernière. Donc il y a son film qui est sorti en février-mars qui s'appelle Ma vie avec John F. Donovan. Donc là, il sort Mathias et Maxime, qui est un retour aux sources. Parce qu'en fait, il revient filmer au Québec après deux films, un en France, donc avec un casting français, ça s'appelait Juste la fin du monde, et un donc qu'il avait tourné à Londres avec un gros casting américain, hollywoodien, etc. Donc Ma vie avec John F. Donovan, et là, il revient vraiment au Québec. Donc il y a des plans magnifiques pour les fans de l'automne, tout ça, de l'été indien. Il y a des plans magnifiques sur cette région des Grands Lacs qui est incroyable au niveau de l'été indien, donc plein de couleurs. Il y a une scène superbe aussi avec un lac très 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 noir et un acteur qui nage dedans. Enfin voilà, je vous ai fait une critique sur mademoiselle.com que vous pouvez aller lire. Et donc voilà, donc ce film est magnifique et j'ai eu la chance pour l'occasion d'interviewer Xavier Dolan voilà, en début de semaine.
PG.
Donc je suis très contente, il y aura une interview qui va sortir aussi de cet entretien. Et voilà, c'est un film qui est pas aussi comment dire, poignant, enfin pas aussi il te jette pas autant d'émotions à la face, c'est pas un gros shoot d'émotions comme ça a pu être avec Mommy, avec Lawrence Anyways. En fait, c'est un film beaucoup plus simple, direct. La façon de filmer est plus authentique, moins travaillée, mais dans le sens, enfin pas dans un mauvais sens du terme, mais juste moins, voilà, plus dans l'instant. Et en fait, c'est ce qu'il a dit en fait durant l'interview, c'est qu'il essayait d'être dans l'énergie plutôt que dans la représentation. Donc il peint moins les plans et du coup ça donne une dynamique vraiment différente à son film, même si on a l'impression qu'il parle des mêmes sujets, etc. C'est plus taiseux, ça parle de masculinité aussi et de bande de potes mecs. Donc voilà, c'est très très intéressant et je vous conseille d'aller le voir au cinéma ce mercredi ou ce week-end.
Trop cool! Merci Fab!
Et merci à vous!
Merci Alix.
Merci Mimi.
Merci Alix.
C'était le premier épisode de Sort le Popcorn. C'est un nouveau format. C'est un pilote. Donc c'est un peu brouillon. Mais j'aimerais beaucoup que tu envoies, cher auditeur, chère auditrice, tes retours, tes recos, tes conseils d'amélioration ou tes réactions à ce qu'on a pu raconter à mimi@mademoiselle.com, mimi@mademoiselle.com. Un jour, on fera une adresse mail pour ce podcast, mais pas aujourd'hui, car on est à la Sbun. En tout cas, moi, je suis très contente de proposer ce nouveau format sur Mademoiselle avec toi, Alix.
Ouais,
et avec différents invités, bien sûr, vous retrouverez Kalindi régulièrement dans ce format. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et j'ai pas de conclu. Faudrait que je trouve un jingle comme pour Laisse-moi kiffer, mais
en sort le popcorn. Sortez les secrets.
Un bruit de popcorn qui fait pop, pop, pop dans une marmite. Voilà, on fera un bruitage maïs dans l'huile chaude.
Est-ce que je peux faire un jingle France Culture ?
Sors le popcorn.
L'énergie du cinéma. Allez, on la garde, elle est bonne. Bisous, à dans 15 jours.
Bisous.
Bye. Abonne-toi.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code PROGRAM.